C'est pas encore demain, hein, mais c'est de DJ. Hein. Vous allez bien? Je suis en train d'envoyer une photo à Joe, voilà, que je viens de prendre dans mon studio. Putain, quel Apollon, hein. Excusez-moi, je suis en train de regarder un gars là, que j'ai pris en photo à l'instant, il est incroyable. Je lui envoie ça en WhatsApp. Un petit debout. Joe. Voilà la photo. Voilà la photo. Dis-moi si ça va. Hier après-midi, on a fait un petit stream avec les amis, avec la commu, pour sélectionner des phrases mythiques de l'histoire poétique française. Et on s'est appliqué et tout. Notamment sur le niveau. J'ai l'impression que c'est un petit peu faible. Par exemple, le debout de Valérie Pécresse, est-ce qu'il n'est pas un petit peu faible? Ah non, ça va. Ça va le niveau? Parce qu'en fait, une des difficultés, c'était notamment d'avoir un niveau OK par rapport à ma voix, quoi. Un peu dit. Un poil faible. Ouais, pourtant, on les a mis en boîte hier. Ouais, pourtant, c'était pas mal. Attends, est-ce que ça joue? Là, c'est mieux? Parce que moi, sur ma sortie de console, c'est vraiment au niveau de ma voix. Ça sort au même niveau de dB. J'en ai un, oui, qui parle plus fort, c'est lui. Ah, il est un peu faible. Hein. Ah, c'est bizarre. Parce que hier, c'était très bien. Hier, c'était très bien. Ouais. Ouais. Et c'est les mêmes. Alors ça, c'est embêtant, ça. On va essayer de régler ça. Alors, WhatsApp. Est-ce que je l'ai envoyé à Joe? Non, je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai envoyé à qui? Alors je viens d'envoyer ma photo à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui. On va regarder ça. Attends. Je ne sais pas à qui j'ai envoyé cette photo. J'ai envoyé une photo à quelqu'un, mais je sais pas à qui. Tant que je t'ai habillé dessus, bah je ne commenterai pas cette info. Alors, ah, on est embêté parce que c'est un peu faible quand même. Éditer, ouais, mais je peux pas. Je peux, ah, non, non, je suis au maximum en dB. Ah, c'est trop faible. T'avais pas le même micro. Ah, ou alors c'est lié à mon micro. Tu crois? Attends, bouge pas. On essaye? On essaye? Je lance le debout de Valérie Pécresse. Ah! C'est peut-être mieux. C'est mieux ou pas? J'ai pas l'impression. Hein. Non, c'est pareil. Hein. Plus fort? Non, parce qu'en fait, c'est important. Ces petits détails comme ça. Ouais. Et, ah, c'est dommage. La voix est plus basse. Ouais. Dommage. Faut que je les refasse tous. Et en fait, je ne peux pas les booster. C'est sur la même piste que le micro. Donc, si je vous booste le micro, ça va être trop fort. Ouais. Bah ouais. Ouais. En fait, ta voix est moins forte dans le casque. Du coup, on entend plus les bruitages. Ouais. Ah, c'est dommage. On a bossé 2 heures et demie là-dessus, hein. 8 sons. Mais je peux pas les booster parce que en DB, ils sont au maximum dans la table. En sortie, c'était parfait hier. Et ce qui était incroyable hier, c'est que les 8, on les a testés hier et ils étaient parfaits, quoi. Voilà. Ouais. C'était un bon stream, ouais. C'est dommage en vrai. Et en plus, pourquoi il les envoie sur la piste micro? Alors ça, c'est un vrai mystère. Pourquoi il les envoie sur la piste micro? Hein? Ça, c'est très mystique. Tu vois, par exemple, là, on a un...
Je vous demande de vous arrêter.
Un baladur, là.
Je vous demande de vous arrêter.
Ouais. Ouais, faut que je travaille dessus, quoi. Ils peuvent pas être mis sur une autre piste. Bon, en fait, alors, la Rodecaster Pro 2 est une très bonne table de mixage. Hein. Très bonne table de mixage, mais qui est assez basique, quoi. Tu vois. Et dans éditer, étrangement, on peut baisser les dB, mais on peut pas les monter, par exemple. Ok. Ok. Tant pis. Bon, hop. Hop, c'est pas le bon micro. C'est pas fou l'actu. Hein. C'est de l'actu quoi. C'est pas c'est de l'actu. Un jour on va se lasser, vous allez voir. Un jour on n'en pourra plus. Hein. Un jour on n'en pourra plus de cette actu. Hein. Non mais oui. Lilith, tu aurais pas à peu près 10 minutes de retard par rapport au stream. Tu ne regarderais pas avec une PS1 ou une PS2? Ouais, alors, la bonne nouvelle, c'est que je vous mets quelques bonnes nouvelles un peu positives, qui sont des petites nouvelles pour la rue de presse des bonnes nouvelles. Mais oui, Trump a encore fait des dingueries. En fait, aujourd'hui, ça fait un an de Trump. Mandat 2. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de dossiers, mais c'est sa vie, son œuvre, quoi, du deuxième mandat. Et pour le coup, c'est pas fou, quoi. Mais il n'y a pas que Trump. Hein. Tiens, je vous mets le sommaire, tiens. On va parler de ça. Encore 3 ans, ouais. Alors, c'est marrant parce que souvent dans le chat, on me dit waouh, 1 an ressenti, 4 ou 2 ou 3 ou 25, comme dit Verena. Et ouais, ça fait qu'un an, le deuxième mandat. On a l'impression que ça dure depuis toujours. Après, il y a eu un premier mandat aussi, donc ça joue, quoi. Il est où mon sommaire de boubou? Il est là. Voilà, ça, c'est aujourd'hui, ça. On va vous faire le sommaire dans un instant, mais oui, il n'y a rien de. Bon, c'est pas la fête, quoi. Genre, la nouvelle la plus light, c'est le budget, le 49.3, quoi. Les deux premières infos, elles sont dures. Hein. L'info la plus légère ce matin, la plus light, c'est le 49.3 sur le budget. Ok. Samuel, il nous nique le moral, le vieux, là. Ouais. Ouais. Mm. Merci, Kiliamsk. Merci, Agenor. Merci à tous les deux. T'avais dit une fois par semaine pour le budget. Ouais, mais ça y est, là, il va être adopté. En fait... Quand il se passe rien, je vous en parle pas, mais là pour le coup, il est en passe d'être adopté par 49.3. Donc, voilà. Il a encore blagué sur le fait de ne pas avoir à voter en mi-mandat parce qu'il est tellement bon président. Jekyll, effectivement, Trump, il fait des blagues là-dessus, ouais. Il fait des blagues là-dessus en mode... Mais pourquoi finalement les élections de mi-mandat, des élections de mi-term ? Le gars dit sérieusement, mais pourquoi finalement demander aux Américains de voter pour élire le représentant au Congrès, au Sénat et à la Chambre des représentants. Ben pourquoi il n'y a pas vraiment besoin. Le mec fait des blagues là-dessus. À quel moment tu fais des blagues avec la démocratie, quoi? Comme le dit Rainbow 86, ce n'est pas forcément des blagues, c'est des ballons d'essai. Que disait... En tant que journaliste, comment ne pas succomber à la négativité des news, dit Amaru Wo. Un peu comme les médecins confrontés à la maladie toute leur carrière, tu vois, ou aux chirurgiens qui opèrent sans arrêt. Je pense qu'à un moment, il y a une distance qui se crée. Je crois. Hein. Franchement, la lecture de certains réseaux sociaux est plus fatigante que la lecture des journaux. Hein. Ah excellent. Je vois que vous êtes nombreux à parler de la mort d'un stadier, là, marocain, lors de la finale de la CAN. Ça, je ne l'ai pas vu, l'info. Vous êtes plus rarement parlé, je vais aller voir. On va te rajouter une info là-dessus, alors. Bientôt, il va dire « Pourquoi refaire une élection présidentielle ?» Oui, c'est ça, ouais. Ils sont moins nombreux, les soutiens de Trump, là, ces derniers temps, je trouve, en France. À une époque, il y avait une petite tendance. Mais pourquoi êtes-vous si méchant avec le président américain, hein? Et puis, vous êtes français. Pourquoi vous... En quoi ça vous concerne, hein? Il y avait même des partis politiques qui disaient beaucoup de bien de Trump... À une époque, moins maintenant.
Quelle indignité.
Moins maintenant. Marrant. Et y compris ici dans le chat, quand moi je parle souvent de l'actualité aux États-Unis et de Trump, et y compris dans le chat, il y a eu régulièrement des gens qui nous interpellaient, m'interpellaient en disant ouais, mais pourquoi cet anti-Trumpisme primaire? Et là, je les ai plus, les messages. Alors, je pense que ces gens ont perdu Internet. Voilà. Et moi, je voudrais bien savoir quel opérateur.
Quelle indignité.
Quel est l'opérateur qui est en train de couper le sifflet à tous ces gens, hein, en leur privant d'Internet, qui soutenait Trump il y a encore quelques jours, quoi. Moi, je pose la question, hein, j'ouvre le débat. Hein.
Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas!
Excusez-moi. Ils sont toujours là, t'inquiète, ils font le dos rond, mais reviendront dès que ça se calmera. Ils sont là. Je vois, je vois. Bon. Bon, mais Trump, Sam ne fait pas. Sam ne fait pas le débat avant le débat, puisqu'on va beaucoup parler de Trump. Et on va parler de harcèlement aussi. Marine, nous avait parlé du harcèlement de son fils Auguste. Je vois que tu es là. Je vous avais parlé du harcèlement que mon fils Auguste subissait depuis 5 ans, le blocage de l'établissement qui refusait de trouver des solutions, nous dit Marine. Bonne nouvelle, il a changé d'école depuis 2 semaines et vit sa meilleure vie. Alors ça, c'est une très belle nouvelle. Il est totalement épanoui et ça fait beaucoup de bien, mon petit cœur de maman. Courage à tous ceux qui traversent ça. Vous savez que c'est un sujet qui est cher à mon cœur. Le fait que la France ne s'est pas mise en ordre de bataille pour lutter contre ce phénomène dramatique, le harcèlement qui existe depuis toujours. Mais il y a un début de prise de conscience de la société. Voilà. Mais sauf que là, il y a un truc ce matin, la mort d'une petite fille, là, une collégienne, je crois, sa famille témoigne, c'est assez monstrueux. Affaire dramatique. On commencera avec ça, d'ailleurs, qui nous rappelle qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, quoi. Ouais, c'est ça, une petite fille qui a mis fin à ses jours. Ouais, c'est ça. Lycéenne, peut-être. 17 ans, tu dirais, Firelander? Quel âge elle avait, la petite? Je vais te dire. C'est affreux. Elle s'appelait Camélia. C'est une lycéenne, tu as raison. C'est pas une collégienne. Elle était en première, je crois. Ouais, c'est chaud. Hein. Voilà, bon, désolé, je viens avec mon. Je m'excuse, je viens avec mon paquet de mauvaises nouvelles. Voilà, ce matin. Mais tant pis, hein. Ouais, on va essayer de faire contre mauvaise fortune mon cœur, quoi. J'espère que vous, ça va en tout cas. Papa d'une enfant qui a commencé l'école cette année, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. On va en reparler de ton carton, mais on a tous un rôle à jouer, les enseignants, les parents d'élèves, les enfants. C'est une prise de conscience globale de la société dont il est besoin pour lutter contre ce fléau. Et par exemple, les parents. Il y a une sensibilisation à faire aux enfants, tu vois. Il faut en parler au quotidien. Voilà. Est-ce que tout va bien? Tous les parents font ça, mais ça va sans dire. Mais est-ce que tout va bien à l'école? Est-ce que personne t'ennuie? Comment ça se passe avec tes petits amis? L'enfant se confie parfois difficilement avec tes petits copains et avec les professeurs. Et signer et essayer de détecter des signes, des symptômes de quelque chose qui ne va pas, mais dont l'enfant ne parle pas. Et puis après, ne pas hésiter à intervenir, quoi. Sensibiliser les enfants sur le fait qu'ils peuvent être harcelés, sensibiliser les enfants aussi que, puisque pour qu'il y ait des harcelés, il faut qu'il y ait des harceleurs. Et il faut sensibiliser les enfants aussi au fait, à aucun moment, qu'ils ne soient en situation d'être harceleurs. Hein, cette sensibilisation, on pense qu'à un côté. Mais s'il y a des harcelés, il y a des harceleurs. Et des parents d'harceleurs. Et aux enfants, il faut parler des deux sujets. Voilà, il faut un changement de comportement de certains chefs d'établissement et de proviseurs. On va en parler dans un instant, puisque au cœur de l'affaire de la petite, là, qui s'est donné la mort, il y a effectivement une responsabilité de l'école qui est en question. Voilà. Bon, désolé, vraiment, ce matin, je vous amène que des trucs un peu lourds. Bon! Et puis à la fin, je remercierai le sponsor de cette matinale, mais pour cette édition, mais je vous en parlerai à la fin. Ok? Ouais, il y a une plainte de la famille, ça rendra pas la personne différente. Tu as complètement raison. Ok? On y va? Hein? On commence le sommaire peut-être? Mais je sais que la question du harcèlement est une question qui vous touche beaucoup. On va prendre le temps ce matin. Je suis avec vous jusqu'à 12h30. On y va? Ok? Merci Mister Killzone pour le 7e mois. Merci Tahulette pour le 18e mois. Merci Kiliamsk pour le Prime. Merci Agenor pour le 44e mois, ce qui est beaucoup. Et on y va. Let's go. Ok. Alors le sommaire, vous l'avez. Il faut peut-être que je branche ma petite tablette. Le clavier, je n'en ai pas besoin. Sommaire à 20 minutes, il y a des choses qui se perdent. Ouais, en fait, j'ai envie de rentrer dans le dur parce que franchement, l'actu de ce matin, elle m'a pas mis en joie, tu vois. En fait, j'ai pas envie de faire le foufou. Vous savez que le matin, j'aime bien faire le foufou sur mon introduction pendant souvent 30 minutes. Mais là, vu l'actu qui arrive, et notamment les deux premières, on va parler de deux décès. On va parler de bizutage aussi. Et la mort d'un étudiant en médecine. Et en fait, j'ai pas envie de faire le foufou parce que ce serait un peu déplacé. Par respect notamment pour les familles de ces deux personnes. Ok? Allez, let's go. Je vous enlève le clavier là. 19 ans, l'étudiant en médecine. Ouais. Ouais, c'est une histoire, c'est son papa qui la raconte, elle est aussi dramatique. Ok. C'est parti. Bonjour à tous. Merci les amis d'être là. Je le disais à l'instant dans mon introduction sur Twitch, les nouvelles sont pas folichonnes. Voilà, il y a beaucoup de choses un peu dures dans l'actu ce matin, je m'en excuse par avance, mais ainsi va la marche du monde. Et c'est l'une des missions parmi d'autres des journalistes de rapporter ce qui ne va pas dans notre monde pour que nous le comprenions, le constatons, que nous soyons en mesure, nous les citoyens peut-être, de peser pour que ça change un jour. Par exemple, on va parler de harcèlement dans un instant et on peut tous à notre petit niveau faire quelque chose. Bienvenue à vous, nous sommes le mardi 20 janvier 2026, on commence par le sommaire de cette matinée Étienne, dans laquelle tous les matins je lis les journaux, voilà, vous nous écoutez en live sur Twitch, vous nous écoutez en replay également sur Twitch quand vous êtes abonné, sur YouTube en replay et également en podcast audio, merci à ceux qui nous écoutent en podcast et pardon par avance pour cette actu un peu lourde aujourd'hui. Ce premier article, il est très dur, c'est une histoire de harcèlement, c'est un sujet dont je parle souvent sur cette chaîne, le harcèlement scolaire, et c'est la famille de Camélia, cette jeune fille, cette lycéenne de 17 ans, qui s'est suicidée il y a quelques jours parce qu'elle était harcelée, et cette famille qui sort du silence et qui dénonce, notamment l'inaction de la hiérarchie scolaire. Je lis le titre du Parisien, la famille de Camélia sort du silence. C'est Salim, l'oncle de la lycéenne harcelée qui s'est ôté la vie en Seine-et-Marne, qui s'exprime pour la première fois sur le drame et raconte les semaines et les heures qui ont précédé son suicide. Voilà. C'est très détaillé, c'est extrêmement circonstancié et ça pose beaucoup de questions sur l'accompagnement, ou plutôt le non-accompagnement de l'école du lycée et de la direction du dit lycée sur... cette jeune fille qui s'était exprimée, qui avait raconté à sa famille, qui avait alerté. Voilà. Les parents avaient pris contact avec l'école. On n'est pas sur on est dans une séquence où les gens ont parlé, mais l'accompagnement n'a pas été à la hauteur de ce que vivait cette jeune fille. Donc je voudrais vous en parler, prendre le temps de vous en parler. Je pense que plus on parlera de ce sujet, c'est pour ça que je vous parle souvent de harcèlement scolaire, et plus la société prendra conscience de tous les efforts qu'il nous reste à faire pour enrayer ce phénomène dramatique qui par ailleurs est amplifié aujourd'hui, parce qu'évidemment que le harcèlement a toujours existé à l'école, mais amplifié à l'heure des réseaux sociaux, puisque les harceleurs ont de nouveaux outils pour harceler l'enfant, l'enfant en primaire, le collégien, le lycéen, en dehors désormais du temps scolaire. Voilà, donc ce phénomène a toujours existé, mais il est peut-être plus violent encore aujourd'hui qu'il n'était. Voilà. Encore une histoire triste qui parle cette fois du bizutage. Le bizutage. Oui, tu as raison, Alan. Alan dit c'est pas une inaction de l'école, c'est bien pire que cela. Selon les premiers éléments effectivement que nous avons, l'école lui a fait comprendre que c'était de sa faute si elle se faisait harceler. Effectivement, le problème c'est que le directeur de l'établissement l'a convoquée et en gros lui a dit qu'elle était une partie du problème et elle s'est ôté la vie dans la foulée de cette convocation, de ce discours du proviseur. Tu as raison, c'est pire qu'une inaction. Tu as raison. Alors le bizutage, ça pour le coup c'est un phénomène qui est en baisse. Ah ouais, vous ne connaissez pas l'histoire. Ah ouais, l'histoire elle est folle. Moi je vois plein de, plein de gens choqués dans le chat, ouais. Là, l'histoire est horrible. Alors, bizutage, pour le coup, c'est un phénomène qui est en baisse. Parce que là, il y a une prise de conscience en France sur le bizutage, sur les excès du bizutage, donc au début de l'enseignement supérieur. Que ce soit dans les écoles de commerce, je ne sais pas si en fac il y a beaucoup de bizutage, je crois que c'est plus dans les écoles. En médecine aussi beaucoup, et là, c'est un papa triste et en colère qui témoigne parce qu'il a perdu son fils, c'était en 2021, son fils qui était en première année de médecine. Voilà. Et son papa que vous voyez à gauche ici avec son fils à droite, donc le papa c'est Daniel et le fils c'est Simon, il avait 19 ans, il dit... Dans le Parisien toujours, sa mort n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Voilà. Comme sur le harcèlement, c'est une question dont on doit s'emparer. Voilà. Donc c'était une soirée d'intégration à l'issue de sa première année de médecine. Il avait brillamment réussi à aller en deuxième année, d'après ce que j'ai compris. Une soirée d'intégration marquée par une forte alcoolisation, alcoolisation forcée des intégrateurs, hein, alors que manifestement ce jeune ne buvait pas. Et ça s'est terminé par la mort de Simon. On en parlera. Troisième sujet, Trump encore. Comme souvent dans l'actualité ces dernières semaines et ces derniers mois. Enfin, depuis son retour à la Maison-Blanche finalement. Pourquoi ? Parce que ça fait un an. Ça fait un an qu'il est de retour à la Maison-Blanche, de retour comme président des États-Unis pour son deuxième mandat. Mais un an et en ressenti plus, quoi. Souvent dans le chat, vous me dites, ça fait qu'un an, on a l'impression qu'il est là depuis un bon petit moment. Hein. Alors, on a plusieurs dossiers ce matin, tout le monde en parle, La Croix en parle, Le Figaro en parle, Les Échos en parle, tout le monde en parle, mais il y a deux dossiers qui sont plus gros en taille que les autres. La ligne éditoriale est à peu près la même. Hein. Vous ne trouverez pas un des journaux que je lis ce matin, que ce soit l'Humanité, que ce soit Le Figaro, que ce soit l'Opinion, Les Échos, Libération, Le Parisien, vous ne trouverez pas un journal pour défendre Trump. Voilà. Mais il y a deux dossiers plus gros que les autres, c'est Libération et Luma. Donc Libération, Trump, un an, ressenti un siècle. Hein, traque des immigrés, guerre économique, attaque contre le climat et la science, complicité avec Poutine, projet de Riviera à Gaza, enlèvement de Maduro, menace d'annexion du Groenland un an après le retour de Trump. Son bilan donne le vertige. Donc une année en enfer, titre Libé. Hein, il y a un gros dossier qui fait plusieurs pages. Hein. Donc on lira. Et l'Humanité, dossier important aussi. Voilà, États-Unis, un an de turpitude. Hein, ce qui m'a permis de faire ce titre. Un an de Trumpitude. Dans la revue de presse, bon, je ne suis pas très fier de moi, mais turpitude, Trumpitude, je trouve que ça marchait bien. Il y a aussi un gros dossier sous le joug de Trump, une Amérique martyrisée. Gros dossier dans l'Huma. Et du coup, bah, je vous ai mis un article dans Les Échos, qui est une tribune de Gaspard Koenig, qui est un philosophe qui écrit souvent dans Les Échos. Et alors lui, il parle d'une vieille idée, dont on parle beaucoup, plus beaucoup d'ailleurs, parce que l'idée de plus d'intégration européenne au niveau des politiques et des opinions, elle a perdu de sa force. Hein. Une vieille idée qui sont les États-Unis d'Europe. C'est-à-dire, oui, MMG a raison, idée de Victor Hugo à la base. Je crois que Victor Hugo en avait parlé, tu avais raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire les États-Unis d'Europe? Ben, ça veut dire une intégration plus poussée de l'Europe, de l'Union européenne, voilà, avec en matière diplomatique, en matière de défense, et des décisions non plus à l'unanimité sur certains sujets, mais plutôt à la majorité qualifiée. Donc ça veut dire de l'abandon de souveraineté aussi. Alors que aujourd'hui, la tendance dans plein de démocraties occidentales et européennes, c'est à l'inverse, la poussée de partis. Hein, de partis.
Où est-ce qu'ils trouvent toute cette énergie ?
Deux partis qui mettent plutôt en avant, c'est pas plutôt d'ailleurs, qui mettent en avant l'importance du fait national, au contraire, par exemple, de celle de la construction européenne. Voilà. Donc, Gaspard Koenig ressort cette vieille idée, hein, et dit, mais face à un Trump, en fait, il faut pas moins d'Europe, il faut plus d'Europe, voilà, il faut des États-Unis d'Europe. Donc on lira ce papier de Gaspard Koenig. Merci Poulpe Breton. Merci pour le Prime. Merci Mr. Killzone. Voilà. Et puis, l'info la plus light de ce matin, pour vous dire que l'info est un peu lourde, c'est le budget. enfin un budget pour la France. A priori, il va passer. Bon, avec le 49.3. Alors, vous allez me dire, parce que vous êtes des témoins avertis, attentifs de l'actualité, mais attends, Samuel, tu nous avais expliqué que Le Cornu avait justement accepté la mission de former un gouvernement Le Cornu 2 en obtenant de Macron la promesse qu'il avait le droit de ne pas utiliser le 49.3. Il avait dit, moi, mon gouvernement Le Cornu 2, il va être basé sur la main tendue vers le Parlement, la confiance, et donc je n'utiliserai pas le 49.3. Voilà, vous allez me dire ça, et vous aurez raison. Bon là, mais sauf que là, il dit, bah ouais, ça, en fait, pour le budget, ça marche pas, quoi. Je suis incapable de trouver une majorité. Et le PS avait pas dit censure sur 49.3. Oui, c'est pas impossible, oui. Oui. Voilà, donc le Cornu dit, bah écoutez, je mange mon chapeau, ce budget ne peut pas passer sans 49.3. Et oui, effectivement, je pense que le PS avait effectivement dit, bah si y a un 49.3, on votera la censure. Et là, le 49.3 dit, ok, il y a un... le PS dit, ok, il y a un 49.3, mais on ne votera pas la censure. Bon. Pourquoi, comment? Bah parce qu'ils ont obtenu des concessions que le PS juge suffisantes. Voilà. Donc on lira ce papier, et c'est... Et c'est l'info la plus légère de ce matin. Et je m'en excuse. Voilà, l'actu est un petit peu... J'ai pas trouvé des petits papiers un petit peu qui pouvaient un petit peu nous rassérer. Attends, je le dis mal. Récemment, c'est inquiété sur ce mot. Rassérené. C'est un très beau verbe. Donc vous connaissez la Corée, c'est rassérené le verbe, rassérené, donc il veut dire rassérené, ça veut dire ramener au calme, à la sérénité. Voilà. Attends.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Oui, il faut que je prévienne les amis qui nous écoutent dans podcast audio. Hier après-midi, on a fait un petit stream avec la commu où on a isolé... On a isolé des petites phrases de politiques célèbres qui désormais vont ponctuer voilà notre revue de presse. Alors par exemple, on a mis de côté je vais vous faire écouter les 8 Balladur qui éliminé du premier tour de la présidentielle face à Chirac alors que tous les sondages le donnaient gagnant, engueule ses militants qui sifflaient les opposants. Voilà. Et de temps en temps, quand vous serez trop déchaîné dans le chat, eh bien, je vous enverrai Balladur.
Je vous demande de vous arrêter.
Voilà, ça c'est Balladur. Voilà. Bon, le son est un peu faible parce qu'on les a bien enregistrés, mais ce matin, ils sont un peu faibles. Chirac, le abracadabrantesque est connu. Hein, quand on sera sur une actualité what the fuck, on sortira du Chirac.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Il est plus fort, lui. Il est bien. Alors ça c'est un classique désormais. Sarkozy a des années interrogé sur le financement potentiellement libyen de sa campagne électorale. Bon, il a été condamné depuis dans cette affaire et il est allé en prison. Avait répondu à David Pujadas, je crois que c'était Pujadas qui l'interpellait sur cette question. Avait répondu.
Quelle indignité.
Classique. Donc ça, il nous servira souvent, celui-ci. Plus loin dans l'histoire, le célèbre, je vous ai compris, du général de Gaulle. Voilà. Et moi, je suis à votre écoute, bien sûr. Oui, il avait dénoncé... Il avait dit... Et sur le service public, en plus. Il a bon dos, le service public. Monsieur Pujadas. Et sur le service public, en plus. Vous noterez que la prison est aussi un service public. De Gaulle.
Je vous ai compris.
De Gaulle. Le fameux «
je vous ai compris ».
Plus récent, hein, devenu célèbre en quelques jours seulement, voilà, la fameuse, le commentaire de Bardella. Bardella sur quoi? Sur Trump? Et sur qui d'autre?
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Sur Sarko aussi? Ah oui, décidément. D'accord, ok. Trump et Sarko.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Ok. Alors ça, c'était un vieux truc, on avait oublié, c'était Valérie Pécresse, lorsqu'elle était candidate à la présidentielle, et qu'elle était pleine d'énergie.
Debout.
Ça, je vous le mettrai pour vous réveiller le matin. On s'en est mis encore deux de côté. On s'est mis le fameux... On a été surpris, on avait oublié l'énergie un peu folle que le président Macron avait mis lors de sa première campagne pour la présidentielle dans l'un de ses meetings, le fameux Et puis, exception à la règle, plutôt que des politiques, on a mis un animateur d'une chaîne d'info en continu dans sa façon un peu particulière parfois de gérer les débats.
Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas!
Voilà, ce qui est dommage, c'est que voilà, on a enregistré hier après-midi tous ces sons à un niveau parfait. Alors, on les a testés, ça a été validé par la commu. Et ce matin, ils sont un peu faiblards. Voilà, il faut que je les reprenne. Voilà. Ça c'est Pascal Pro pour ceux qui posent la question. Voilà. Un petit Pascal Pro. Alors il y avait plein d'autres à mettre. On aurait pu mettre Mélenchon, on aurait pu mettre Hollande, Mitterrand. Mais on a fait ça avec la commu hier. Voilà. Voilà. Bon, il faut juste que je booste un petit peu le son. Le qui aurait pu prédire de Macron, des raffarinades, c'est moi la République. Après, parfois, on est allé écouter des sons qui étaient finalement décevants. Ou parce qu'il y avait du chevauchement, d'autres. Par exemple, quand Ils sont là de Marine Le Pen, par exemple, y a Macron qui parle par-dessus, en fait. Et en fait, quand tu le réécoutes, il est moins fou, en vrai. Voilà. Mais vous fumez, etc. Ouais. Le lever de bras de Musk. Alors en son, ça rend pas trop. Ouais. Le taisez-vous de Finkielkraut, c'est pareil. Alors Finkielkraut, taisez-vous. Dans Je crois ce soir ou jamais avec Frédéric Taddeï. Hein, le taisez-vous. Taisez-vous. Bah c'est pareil. En fait, l'autre, l'interlocuteur parle dessus quoi. Et le moi de Mélenchon. Moi. Mais qui est celle-là? C'est pareil. Le Pen et Mélenchon se parlent l'un sur l'autre. Voilà. On aurait pu mettre le au revoir de Jacques Chirac, etc. On est à l'antenne là de Finkielkraut. Ce soir ou jamais. Ouais. Voilà. Alors, il y a GeekFan qui dit « Qu'est-ce que tu entends par faiblard? Les sons sont bien et forts et pourtant mon son est à 50%. » Alors, ça me rassurait, mais tout à l'heure, on a fait les essais et on a trouvé que les sons étaient un peu faibles. Les sons que je vous ai fait écouter, les amis, un peu faibles, non? Ou ça allait? Vous les avez quand même entendus? T-Bay, ça allait? C'est plus faible qu'hier. C'est un peu plus faible, ouais. Les sons sont un peu bas. Un poil faible. Ok. Après, je pourrais peut-être les booster à chaque fois que je les passe. Par exemple, je peux faire le debout de Pécresse, c'est ça.
Debout.
Et si je le booste un peu, ça fait ça.
Debout.
Vous voyez la différence ou pas? Faible.
Debout.
Plus fort.
Debout.
Je sais pas si vous voyez la différence. Bof, hein. Oui, c'est mieux, mais c'est pas fou. Hein. Ouais. Il faut que je les refasse tous. Les sons sont bas, c'est le moment d'acheter. Il faut que je les refasse tous. Voilà. On les entend, dit Eric, mais ça aurait plus d'effet s'ils étaient plus forts. Ouais. Il faut que je les refasse tous. Bon, moi, j'en ai pour deux heures. Hein. Donc, je vous fais ça. Ok. Il y a la vieille personne qui me dit « Je suis paraplégique, je me sens un peu agressé par ce son. » Je suis désolé. En vrai, ça marche, je te prends pas la tête. Alors moi, je suis un petit peu... Tu peux pas lier les pads à des fichiers audio, ça va être plus simple à configurer par la suite. Non, c'est juste un niveau d'entrée, c'est rien du tout ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Je vous ferai ça. Bon, on y va? Allez, premier sujet. Bon là on passe à quelque chose de dramatique, la mort de cette jeune fille lycéenne harcelée, et j'ai intitulé ce thème le fléau du harcèlement parce que c'est un fléau. Je pense que vous en êtes tous convaincus. Si quelqu'un dans cette communauté, dans ce chat, n'est pas convaincu que le harcèlement scolaire est un fléau, hein, écoutez ce dossier. C'est dans le Parisien qui est un journal qui parle souvent de ce sujet d'ailleurs. La famille de Camélia sort du silence. Salim, l'oncle de la lycéenne harcelée qui s'est ôté la vie en Seine-et-Marne, s'exprime pour la première fois sur le drame et raconte les semaines et les heures qui ont précédé son suicide. Il parle au nom d'une famille meurtrie par le chagrin. L'oncle de Camélia raconte les dernières semaines de cette adolescente de 17 ans qui s'est suicidée sous le RER B le 13 janvier. Je vous mets l'article, pardon. Pour ceux qui ne le savent pas, cette jeune fille, elle est sortie du lycée et elle est allée s'allonger sur une voie du RER B. Voilà. Scolarisée en terminale STMG au lycée Honoré de Balzac de Mitré-Maury, Seine-et-Marne. Alors je donne volontairement le nom du lycée parce que manifestement, vous allez le voir, il y a un problème au niveau de l'accompagnement, ou plutôt du non-accompagnement, voire pire, de l'encadrement scolaire, notamment au niveau de la direction autour de cette jeune fille. L'implication de la direction du lycée dans ce dossier pose question, c'est Le Parisien qui le dit. Une enquête administrative, en plus du volet judiciaire, donc il y a deux enquêtes, est en cours. Vendredi, l'Éducation nationale indiquait que ces investigations internes devront établir avec rigueur et objectivité le déroulement des événements et en tirer tous les enseignements nécessaires. Voilà. Comment avez-vous vécu ces derniers jours, demande Le Parisien à cet oncle. En état de choc, on ne comprend pas comment on en est arrivé là, on pense très fort à notre nièce, on a envie d'honorer jusqu'à sa dernière demi-heure en Algérie pour qu'elle repose en paix, loin de ses harceleurs. À quel moment sont venus les premiers signaux ? J'ai été alerté par ma sœur, donc c'est la maman de Camélia, courant décembre. Donc on est mi-janvier. Elle m'a demandé de l'aide pour écrire un courrier aux enseignants. Donc on a une famille ici mobilisée. On a une famille qui a été alertée par cette jeune fille et une famille qui s'est démenée, qui a essayé d'alerter l'établissement. Hein. Parfois, le harcèlement, il passe... la famille n'en a pas forcément conscience. Hein. Elle n'a pas forcément l'info. Quoi. Là, ce n'est pas le cas. Sa fille avait de gros soucis de harcèlement. Son comportement avait changé. Elle ne mangeait plus. Elle était anxieuse, elle a des problèmes de sommeil. Alors, tout à l'heure, je dis pour les parents, parfois c'est compliqué de détecter ces situations de harcèlement d'un enfant. Voilà. Et on a lu beaucoup d'articles dans le passé sur cette chaîne, et des spécialistes du sujet nous disent, donc c'est des sujets dont vous devez parler régulièrement avec vos enfants, hein, comment ça se passe à l'école, la petite discussion quotidienne, sachant que les enfants ne se confient pas toujours. Mais le travail, c'est aussi de détecter plein de petits signes qui doivent vous alerter. Là, on en a quelques-uns. Hein, l'appétit perdu, hein, l'anxiété, le sommeil, une chute des résultats scolaires brutale, hein, ce genre de choses. Voilà. Comment se manifestait ce harcèlement, demande Le Parisien à l'oncle de Camélia. Camélia disait qu'il y avait des rumeurs sur elle, hein, qu'elle était l'objet de brimades, surtout dans la classe et dans les couloirs, des moqueries sur son attitude, son physique. Bon, le harcèlement scolaire, quoi. Elle commençait à avoir peur. Avec ma sœur, donc la maman de la jeune fille, on a rédigé un courrier à ses professeurs pour les prévenir qu'elle était en souffrance, qu'elle avait besoin d'aide. Donc là, on a une famille qui fait son taf, quoi. OK ? Quelles ont été les réactions ? Demande Le Parisien. Les profs ont spontanément cité le nom des personnes impliquées. Deux filles de sa classe et d'autres dans le lycée. Elles ont créé un effet de meute sur Camélia. D'autres qui ne participaient pas au départ ont fini par le faire. Camélia, je vais lire le message d'Emma dans un instant dans le chat. Camélia vivait complètement différemment selon leur présence ou non de ses élèves harceleurs. Elle envoyait à sa mère, par exemple, quand ses élèves n'étaient pas là, « Ouf, elles ne sont pas là. » Emma vient d'écrire dans le chat « Mon fils aîné a été harcelé pendant ses années collège. Pour la principale, tout était de sa faute. » J'ai failli le perdre. Je me suis battu pour qu'il n'y aille pas dans le même lycée que ses harceleurs. Maintenant, mon fils est parti à Paris pour ses études et il vit sa meilleure vie. Voilà. Je suis très heureux pour ta famille, Emma. Mais c'est fou quand même, parce qu'on a beaucoup de témoignages comme ça. Et c'est le cas dans cette histoire où l'élève harcelé est accusé par parfois des enseignants ou la direction d'un établissement que le problème vient d'eux. Et c'est le cas dans cette histoire. Et c'est le cas dans cette histoire, vous allez le voir. Après les vacances, est-ce que ça a repris aussitôt ? Tout recommence de plus belle, dit l'oncle. Hein ? Manifestement, on a le témoignage de l'oncle parce que la maman n'a peut-être pas la force de témoigner aujourd'hui. Elle se sent vite en insécurité, ne rentre plus de l'école seule. On adresse une seconde lettre aux profs principaux avec le proviseur en copie. Là, on y va franchement. La dernière phrase de notre lettre, c'est « Je vous demande que des mesures soient prises afin de faire cesser immédiatement les faits de harcèlement. » Donc, on a une famille qui prend l'affaire, quoi. À bout de bras, qui est en action. On reçoit une réponse de l'école qui nous rassure. Hein. On se dit « Ça y est, ils ont pris la mesure. » Le 12 janvier, dit le Parisien, tous les élèves impliqués, dont Camélia, sont convoqués. Voilà. Camélia sort de ce rendez-vous avec le proviseur et écrit « Le proviseur était en colère. » De ce que l'on comprend, le courrier de la famille le dérange. Le lendemain, le harcèlement continue. Mais ma sœur tente de le rassurer, ne fait plus attention à eux, c'est bon, le proviseur s'en occupe. Dans notre esprit, tout allait se terminer. Mais dans l'après-midi, c'est là où ça ne va plus du tout. Enfin, rien ne va depuis le début de cette histoire, mais là, c'est pire. Mais dans l'après-midi, le proviseur convoque à nouveau Camélia. Là, selon la jeune fille, il lui aurait fait porter une partie de sa responsabilité, la responsabilité de la situation. Ce qui est hallucinant, dit l'oncle. Il a dit que j'aurais une sanction disciplinaire. Le proviseur dit à la jeune fille qu'elle va avoir une sanction disciplinaire. Ma sœur n'en croyait pas ses yeux. On est passé d'un extrême à l'autre. Lundi soir, on lui disait « C'est bon, le proviseur, l'homme de confiance va te sortir de cette situation, tu ne vas plus souffrir. » Et finalement, vous connaissez la suite. Que vous a dit la direction après le drame ? Et je vais revenir sur le drame, sur l'enchaînement des événements juste après, dans l'article qui est à droite, là, avec la lecture des SMS que cette jeune fille envoyait à sa maman. Que vous a dit la direction après le drame ? Le lendemain, on a eu un message du proviseur. « Madame, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de votre fille. Je vous adresse nos plus sincères condoléances. » Et c'est tout. Et c'est tout. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on laisse en poste le proviseur ou au moins qu'on ne le mette pas à l'écart. Le Parisien nous indique que la famille a porté plainte contre lui ainsi que contre les élèves impliqués. Que ressentez-vous ? Demande le Parisien à cet oncle. Après le geste de Camélia, on se sent coupable, mais on se demande ce qu'on aurait pu faire de mieux. On avait une confiance totale en la direction. Pour nous, le dossier était classé. Camélia ne s'est pas donné la mort. Pour moi, c'est eux qui lui ont donné la mort. Alors là, c'est un autre article très dur aussi, parce que c'est notamment la lecture des SMS échangés entre la jeune fille et sa maman. C'est toujours très dur, hein, ces histoires. Ne fais plus attention à eux, c'est bon, le proviseur s'en occupe. 11h24, ce mardi 13 janvier, Camélia reçoit ce message de sa mère sur son fil WhatsApp. On devine l'adolescente pousser un ouf de soulagement. Comment alors imaginer l'impensable quelques heures après ce message rassurant. Ne fais plus attention, donc c'est bon, le proviseur s'en occupe. C'est la maman qui écrit. Quelques heures après ce message, Camélia quitte précipitamment le lycée vers 17h, grimpe dans le RER B, s'arrête en gare de Villeparisis, Seine-et-Marne, descend sur les voies. Au moment où un autre train arrive, Camélia est déclarée morte à 17h57, précise. Qu'est-ce qui s'est passé entre 11h24 et 17h57 ? Son suicide a entraîné une onde de choc et de colère dans son lycée et bien au-delà. Les faits de harcèlement dont Camélia s'était dite victime étaient connus du corps enseignant. Pire, le proviseur était informé de la situation et avait, la veille et le jour du drame, convoqué les protagonistes de l'affaire. Les derniers échanges entre Camélia et sa mère, auxquels nous avons eu accès, se révèlent accablants pour le proviseur. Ce dernier, comme les harceleurs présumés, est visé par une plainte déposée par la famille de la défunte. Les faits. La veille des faits, le lundi 12 janvier, le proviseur de Balzac, alerté par une lettre de la maman de Camélia du harcèlement répété à l'encontre de sa fille, décide de prendre le sujet à bras-le-corps. Il convoque les auteurs présumés, dont deux filles scolarisées dans la même classe et Camélia. Mais le proviseur aurait manifestement peu goûté ce courrier envoyé la semaine précédente par la famille. Voilà. Et ça renvoie à plein de témoignages, notamment d'enseignants. Parce que dans cette communauté, il y a beaucoup d'enseignants qui témoignent de la vie au quotidien dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et Il y a beaucoup de profs qui nous disent, quand on dénonce des choses, on a face à nous des proviseurs parfois qui sont en mode « pas de vague ». Pas de vague. Et qui, du coup, ne se sentent pas soutenus par leur direction parce que en face, on a quelqu'un qui... pardon, je vais avoir des mots un peu violents, mais qui, manifestement, pensant plutôt au déroulé de sa carrière, préfère ne pas faire parler de son établissement parce qu'il s'y passe des problèmes, quoi. Ça, c'est quelque chose dont les enseignants témoignent beaucoup. Bubulbe Bonito me dit c'est à cause des notations des établissements, les directeurs ne veulent pas baisser leurs notes et ce sont les élèves qui en pâtissent. Ma femme est prof, me dit Alex, et je confirme. Le harcèlement causé par les profs ou élèves n'est jamais puni, c'est un scandale. Galidran. En tant qu'enseignante, je confirme l'omerta concernant les faits de harcèlement. On se heurte à des murs, des proviseurs qui ne prennent pas au sérieux les témoignages des élèves. Voilà, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Ah. Qui m'écrit ? Ah, c'est vieux. C'est une copine. Et mon Joe, il me dit que c'est OK. OK. Je continue. Donc, le proviseur aurait manifestement peu goûté ce courrier. Voilà, ça dérange. Envoyé la semaine présente par la famille. Craint-il que cette histoire ne nuise à l'établissement ? Dès le lendemain, et malgré la convocation des harceleurs présumés, les faits continuent. La mère de Camélia tente toutefois de rassurer sa fille avec ce message de 11h24. Ne t'inquiète pas, le proviseur s'en occupe. On parle de la journée où la jeune fille s'est suicidée. Je vois plein de messages dans le chat de gens qui ont connu ce phénomène du harcèlement. On va en parler, hein, je vais vous entendre, je vais vous écouter. La journée se passe jusqu'à cette annonce surprise. Le proviseur, après avoir convoqué donc le matin l'élève harcelé et les harceleuses, puisqu'il s'agit manifestement principalement de deux autres filles, la journée se passe jusqu'à cette annonce surprise. Le proviseur veut revoir Camélia dans son bureau, moins de 24 heures après la première entrevue. L'élève, alors en cours, est donc prié de sortir de classe, peu après 16 heures. L'échange dure environ une demi-heure. À 16h32, la mère de Camélia reçoit un SMS de sa fille. Ils ont dit que c'est moi, la fautive. Et que j'aurai une sanction disciplinaire. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis en cours. Je te rappelle après. Stupeur chez la maman, la mère de Camélia, qui n'était pas informée de cette nouvelle convocation. À 16h43, l'ado renvoie un SMS. Il a dit que je me victimise. Puis 3 minutes plus tard, écrit à nouveau. Toujours des sujets très lourds, ça. Hein. En tout cas, je t'aime et tu es la meilleure maman du monde, accompagnée de 2 emoji cœurs. Ce sont les derniers mots de Camélia envoyés à sa mère, alors que celle-ci la croit toujours en cours. L'adolescente a pris ses affaires et quitté la classe sous un prétexte hâtivement élaboré. Une camarade alors présente témoignera ensuite. Elle était dans un état décomposé. La suite se déroule donc, je vous l'ai déjà raconté, en gare de Villeparisis, où Camélia se donne la mort vers 17h30. Soit moins d'une heure après être sortie du bureau du proviseur de son lycée. Ces derniers instants, ainsi que les semaines qui ont précédé le suicide de Camélia, sont actuellement décortiqués par les enquêteurs de la PJ de Torcy, saisis du dossier. Des histoires comme ça, en 5 années de revue de presse, on en a lu plusieurs. Alors, c'est jamais la même histoire et en même temps toujours la même. Un phénomène qui n'est pas jugulé. Voilà. Alors, attention, hein. La rigueur journalistique nous doit, nous impose de dire que il y a une progression sur le phénomène du harcèlement. Il y a une progression en France dans la perception. Il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a eu des déclarations, il y a eu des mesures prises. Donc la sensibilisation à la question du harcèlement est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais le travail, on le voit encore, on le voit avec cette histoire, est immense, puisqu'on a encore des situations comme ça. Quoi. Voilà. Et donc cette prise de conscience dont je parle à l'instant, elle est évidemment largement insuffisante. Prise de conscience de qui ? Alors, je prends un peu de recul par rapport à l'article, parce qu'on a déjà parlé plein de fois de ce sujet, on a déjà beaucoup parlé ensemble. De tout le monde. De tout le monde. Des enfants, hein, des jeunes, qui doivent comprendre qu'effectivement ce phénomène existe. Et que si jamais ils sont la cible de harcèlement, il faut ne pas rester seul. Et il faut en parler à sa famille, ses amis, à ses enseignants quand ils sont en capacité d'être compréhensifs. Voilà. Mais là, cette jeune fille avait parlé à sa famille. Non, mais parfois, l'enfant ne parle pas. Voilà. Donc, l'enfant doit, par une sensibilisation qui doit être menée par les parents, qui doivent parler de ce sujet, voilà, par les enseignants aussi, les enfants doivent être sensibilisés. Voilà. Au fait de pouvoir être harcelé, au fait de pouvoir être harceleur, parce qu'on n'y pense jamais, hein. Pour qu'il y ait des harcelés, il faut qu'il y ait des harceleurs. Voilà. Et on n'imagine jamais que nos enfants peuvent être des harceleurs. Or, pourtant, c'est des choses dont il faut parler à la maison, avec ses enfants. Parce que... Voilà. Et ça c'est, je pense qu'on n'y pense pas. Donc expliquer à un enfant que voilà, s'il voit un petit copain, voilà, se moquer de façon récurrente d'un élève, voire même qu'il y a un phénomène de groupe, voilà, que ce n'est pas bien, que c'est mal, qu'on ne doit pas faire ça. C'est une façon de le prévenir, de le mettre en garde, lui, qu'il ne doit pas participer, non seulement ne pas participer à ce à ce type de phénomène, mais aussi peut-être en parler s'il constate ce genre de situation, en parler, je pense d'abord à ses parents. J'ai vu que tel enfant était régulièrement embêté, vous connaissez les mots des enfants, embêté, évidemment, c'est pas forcément le mot qu'ils utilisent, quoi. Donc en parler aux enfants, voilà, et puis quand vous êtes confronté, et je vois dans le chat beaucoup de personnes qui ont été confrontées ou pour eux-mêmes, pour leurs enfants, à ces sujets, eh bien, il faut prendre la chose très au sérieux et se mobiliser avec une grande force pour faire bouger parfois les lignes et obliger, quand les enseignants et la direction d'un établissement ne sont pas à la hauteur, parce que parfois ils le sont bien sûr, hein, du problème, pour les obliger à bouger, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai beaucoup parlé, je vous lis un petit peu. Alors, il y a un numéro de téléphone. Hein. Alex le rappelle, vous avez un numéro qui est épinglé par Boubou aussi là-haut. Hein, vous avez le 3018, numéro de téléphone, qui est un numéro vert contre le harcèlement, hein, que tout le monde peut appeler, y compris les enfants. Le 3114 pour la prévention au suicide. On a le 119 spécifiquement pour les enfants et les ados. Il y a le numéro de téléphone. Si c'est un numéro de téléphone qu'il faut faire connaître. C'est un outil parmi d'autres. Alors c'est des sujets, effectivement, c'est... Ikana, mon neveu, quand je lui en parle, ne sait pas faire la différence. Et identifier le harcèlement. Quand je lui en parle, il dit mais tout le monde se moque de tout le monde. L'école est parfois un milieu extrêmement violent. Hein. Samus, mon fils est délégué de sa classe, il a pris la lutte contre le harcèlement comme cheval de bataille, il en est même devenu le confident de plus grand. Bravo à lui. Sextasy, ma meilleure amie s'est donnée la mort en 2016, elle était en seconde harcelée par des lycéens, elle n'en a jamais vraiment parlé. Drakeos, ce qui est terrible, c'est que... Salut Drakeos. C'est qu'ici, on l'a constaté, tu as raison, les parents de la petite Camélia ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. C'est le proviseur qui n'a pas été à la hauteur, c'est peu de dire, il est comptable de cette finalité terrible. Moi, ce qui m'ennuie dans cette histoire, c'est quoi? C'est que les propos du proviseur qu'il a tenus auprès de cette jeune fille, hein, dans ce bureau, où il l'a rendue responsable des faits, où il l'a menacée d'une sanction, hein, où il a dit que finalement qu'elle était responsable de son propre harcèlement, qui en a été témoin? Il y a de grandes chances que les seuls témoins de cet entretien, ce soit Camélia, qui n'est plus, et le proviseur. Que va dire le proviseur pour sa défense? Que pourrait-il dire? Je ne suis pas à sa place. Peut-être qu'il va reconnaître les faits. Mais que pourrait-il dire? Que ses propos, il ne les a pas tenus. Qu'il n'a pas menacé l'élève de sanctions. Qu'elle n'a pas compris. Ça, c'est le problème des affaires. Et c'est aussi, je fais un pas de côté, c'est aussi le même sujet dans les affaires de violences faites aux femmes, par exemple. Hein, c'est que souvent, ces violences sont dans le cadre du logis, du foyer, et que il n'y a que deux témoins, une personne qui dénonce des violences, par exemple, et en l'occurrence un agresseur, c'est parole contre parole, comme dit Sugar, qui va nier. Et il y aura toujours des gens pour effectivement dire que la victime invente. L'hystérique. Voilà. Et que il faut défendre le violent. Donc, il y a deux enquêtes. Il y a deux enquêtes, une enquête administrative et judiciaire. Mais quel élément de preuve aura la justice pour prouver ce qui est rapporté par les SMS entre cet enfant et sa maman pour prouver que, effectivement, le proviseur a bien tenu ses propos? Ça va être. C'est même pas parole contre parole, puisque la personne qui aurait pu porter cette parole, Camélia, elle n'est plus là. Donc ça n'est même plus, ce n'est même plus parole contre parole. Voilà. Et pourtant, il y a une jeune fille qui s'est allongée sur les rails de RER, quoi. Tu vois, Alain, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Alain dit, laissons tout de même faire la justice, faire son travail et ne tombons pas dans la spirale du harcèlement d'équipe pédagogique. Oui, mais Alain, tu sais très bien ce qui va se passer. C'est ça qui m'ennuie dans cette histoire. C'est que si on se donne rendez-vous dans quelques mois pour voir ce qui s'est passé après cette histoire, donc la seule manière d'enrayer ce phénomène, puisque moi je suis assez pessimiste sur la suite judiciaire de cette histoire, c'est qu'en fait en tant que corps social, nous nous mobilisions pour enfants, parents, enseignants, tout le monde. Qu'on soit autant de lanceurs d'alerte, par exemple, hein, sur ce sujet, pour en parler, sensibiliser, être attentif, interroger nos enfants, voilà, lui demander ce qu'il vit, ce qu'il voit, voilà, et intervenir. Voilà. 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 Je vous lis un petit peu. J'ai fait de la sensibilisation, pardon, Dave Grohl, merveilleux pseudo. J'ai fait la sensibilisation auprès d'élèves, me dit Dave Grohl, mais visiblement, il faudrait changer les choses au niveau de l'académie d'abord. Marine, l'équipe du pôle harcèlement de mon département et la rectrice tentent de former les enseignants, mais ils me disent que c'est souvent très difficile. Oui, Mani a raison. En fait, il y a aussi moins. On sait que par manque de moyens, il y a moins d'infirmières scolaires, souvent des femmes, C'est pour ça que tu le mets au féminin, moins d'infirmières scolaires dans l'établissement qui doivent aujourd'hui se partager parfois même entre plusieurs établissements. Or, les infirmières scolaires, elles pouvaient jouer un rôle important par rapport à ça. De travailler dans un lycée. Alors, là, on a une affaire, une dysfonction du système gravissime, hein. Mais parfois, il y a des établissements où la sensibilisation fonctionne. Hein. Yann, bonjour, je travaille dans un lycée du 94, ma proviseure prend ça très au sérieux. Voilà. Des élèves ont été formés, des professeurs aussi, chaque rapport est pris très au sérieux, les parents sont reçus à la chaîne. Bah voilà, c'est ça. Vous voyez que c'est possible. Donc, Donc c'est possible. La lutte contre le harcèlement dans mon lycée est devenue un enjeu très important. On a même été labellisé phare, donc c'est un programme hein, de lutte contre le harcèlement, niveau 3 l'an dernier. Vous voyez, donc c'est possible. Si c'est possible dans ce lycée du 94, c'est possible. Si c'est possible avec cette proviseure, c'est donc c'est du domaine du possible. C'est une histoire, c'est une question de volonté. Merci beaucoup Yann pour ton témoignage. Marine me dit oui c'est possible, je le vois, toi qui l'as connu ce sujet dans ta famille, je le vois dans la nouvelle école, ils sont très investis. Voilà. Vous voyez, ça fait une heure qu'on est ensemble, ça fait 30-40 minutes qu'on parle de ce même sujet, hein. Certains pourraient trouver ça trop, mais je le fais à dessein parce que c'est justement en parlant de ce sujet et d'en reparler. Voilà. Là c'est page 14 cette histoire, mais en fait, je sais qu'il y a plein de choses gravissimes dans le monde, mais cette histoire de Camélia, elle devrait être à la une de tous les journaux. Parce que c'est en parlant et en se sensibilisant mutuellement à ce sujet que on va faire progresser les choses, quoi. Parce que la proviseure du 94 dont quelqu'un nous parlait à l'instant, bah, si elle a face à elle des parents, des élèves, des enseignants qui ont été sensibilisés, qui ont été au courant de ces histoires comme de celle de Camélia, eh bien le travail de cette proviseure, de cette femme qui est en situation de direction là, eh bien son travail sera facilité. C'est là où c'est un travail collectif. Et la question du harcèlement, et Marvel a raison, c'est une question extrêmement complexe. Hein. Souvent les harceleurs sont aussi sont parfois eux-mêmes des harcelés, hein, sont parfois des victimes à la base, des gens qui souffrent, qui font souffrir à leur tour. Il ne faut pas le nier. Hein. L'éradication du phénomène du harcèlement, elle passe par l'accompagnement des harcelés, mais je vais en choquer certains avec cette phrase, hein, mais l'accompagnement des harceleurs aussi. C'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Deris vient de nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toi. Je tombe par hasard sur ce live. Je sors à l'instant du commissariat car mon fils se fait harceler et voler à l'école. C'est compliqué de pouvoir faire bouger les choses. Je suis au Luxembourg. Oui, c'est vraiment un sujet universel, quoi. Voilà. Bon, évidemment, nous n'allons pas résoudre le problème nous ce matin dans cette petite et modeste revue de presse, mais je vous en parlerai aussi souvent que je le pourrai de ce sujet. Ce sera notre petite pierre apportée à l'édifice. Alors désolé, les actus ce matin sont pas très. Merci à tous pour vos témoignages qui sont que je lis pas tous, mais qui sont très touchants. Désolé ce matin, l'actu est un petit peu lourde. On va parler maintenant du phénomène du bizutage. Pour le coup, le bizutage. le bizutage dans l'enseignement supérieur et ses excès. Ça, pour le coup, il y a eu, on en a parlé, il y a eu sensibilisation, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce phénomène-là est en recul. Voilà. Mais il n'a pas disparu, la preuve. Vous avez un papa qui témoigne dans Le Parisien toujours, voilà. Après la mort de son fils qui était en fin de première année de médecine, ou en début de deuxième, voilà, et qui est décédé après une soirée d'intégration. Sa mort n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, dit ce papa. Le père de Simon Guermont-Prez, décédé en juillet 2021, donc c'était il y a 5 ans, après une soirée d'intégration, témoigne avant l'ouverture du procès ce mardi. On en reparle parce que le procès s'ouvre aujourd'hui, parce qu'il y a un procès. Et c'est tant mieux. Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2021, Daniel Guermont-Prez et son épouse Laura apprenaient le décès de leur fils Simon, 19 ans, étudiant à la fac de médecine de Lille, après une soirée d'intégration marquée par une forte alcoolisation. Le jeune homme qui assume ses proches ne buvait jamais venait de réussir brillamment le concours d'accès en deuxième année. Vous savez combien les études de médecine sont compliquées, hein, et passer en deuxième année, c'est vraiment très difficile. Donc il venait de faire ça. Il est mort fauché sur l'autoroute A27 par un camion après avoir été ramené en VTC pourtant jusqu'au domicile familial. Mais il s'en serait éloigné pour faire un selfie, puis aurait fait tomber son téléphone portable d'un pont surplombant l'autoroute avant d'être percuté en tentant de le récupérer. Voilà. Trois des organisateurs de la soirée et l'univers. Bon, certains pourraient dire, hein, sans réfléchir à ce niveau de l'histoire, bon, bah, le gars était bourré et il a fait n'importe quoi. Voilà. Mais pourquoi était-il ivre ? C'est la question qui est posée par la justice. Trois des organisateurs de la soirée, l'Université de Lille, seront entendus par la justice ce mardi. Ah voilà, je m'y attendais. Ikana. Ah, mais oui, mais il était fin sous. Ben oui, mais il faut réfléchir un peu. Trois des organisateurs de la soirée à l'Université de Lille seront entendus par la justice ce mardi au tribunal de Lille. Les parents de Simon espèrent que le procès permettra à chacun de prendre conscience des responsabilités dans ce drame. Notre objectif, explique le papa, est de faire comprendre aux organisateurs de ces soirées que leurs traditions insensées d'enivrement peuvent mettre la vie de leurs participants, les bisus, en danger. Ceux qui ne boivent pas d'alcool habituellement peuvent être déboussolés, désorientés ou en situation de grande détresse, comme l'ont constaté les inspecteurs de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche dans leur rapport à propos d'autres étudiants que Simon la nuit de son décès. Les organisateurs reproduisent ce qu'ils ont subi eux-mêmes. Sur leur responsabilité, leur déni est total. Ils sont poursuivis pour simple bizutage et non pour les conséquences de leur bizutage. Ils devraient être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Vous poursuivez également l'Université de Lille. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi a une lourde responsabilité, estime le père. Elle a laissé se dérouler ces événements sans rien dire, sans s'assurer des règles de sécurité prises par... les organisateurs, sans chercher à connaître leur programme, sans même se demander si le lieu était seulement adapté à l'accueil de nombreux étudiants. La soirée d'intégration de Simon, par exemple, a eu lieu dans un petit appartement lillois dont l'adresse était tenue secrète avec 150 étudiants entassés les uns sur les autres. Qui aurait été tenu responsable s'il y avait eu un début d'incendie, par exemple ? Hein ? La question se pose surtout après les derniers événements en Suisse, dit-il. Pour vous, Simon aurait subi une forme de chantage à l'alcoolisation. De quelle manière ? Ça, c'est pour répondre à la personne dans le chat qui nous disait « Bah oui, mais il était bourré !» Quand il est question de bizutage, on pense généralement à des jeux amusants en bon enfant. Mais tout le monde ne sait pas ce que ça signifie en faculté de médecine. Nous, parents, nous ignorions, avant le décès de notre fils, que la tradition en fac de médecine consistait à enivrer des bisus et de manière programmée. Nous avions demandé à Simon, qui n'était absolument pas un fêtard, s'il devait absolument se rendre à cette soirée. Il nous a dit que oui, il le fallait, car s'il n'était pas intégré, il ne pourrait pas recevoir ses cours pendant l'année. Lui, qui ne buvait jamais d'alcool, a été obligé de suivre le mouvement pour ne pas être rejeté. Au cours de la soirée, il a reçu pour objectif d'avaler le contenu de 12 grosses seringues remplies d'alcool mélangé, qu'on lui a versé directement dans la bouche en moins de 2 heures. Il a dit stop au bout de 8 doses, en témoignent les marques réalisées sur les bras de manière à compter les doses reçues. A répété à plusieurs reprises être fatigué, et les organisateurs de la soirée l'ont laissé repartir sur la route après l'avoir fait boire. Fin novembre, un étudiant de la faculté de médecine de Nancy a aussi perdu la vie après une soirée d'intégration. Comment éviter de tels drames ? Donc, vous voyez, c'est pas un fait isolé. Nous nous battons depuis 4 ans pour obtenir une loi ou un décret afin d'obliger les facultés de médecine à convoquer les organisateurs avant les événements, afin de les obliger à appliquer les règles de sécurité de la charte ministérielle de 2018 de façon à encadrer ces soirées. La mort de Simon n'est pas un accident, n'est pas un fait divers. Il s'agit d'un fait de société que nous pourrions facilement éradiquer si l'université jouait son rôle de prévention. En fait, ce papa, il nous dit la même chose que pour la question du harcèlement quand on parlait de cette proviseure du 94 tout à l'heure qui a pris les choses à cœur et qui a fait de la lutte contre le harcèlement quelque chose d'important dans son établissement. Eh bien, ce papa, il dit, si les universités prenaient les choses sérieusement, on pourrait éviter des drames, quoi. Désolé pour la revue de presse ce matin, c'est un peu lourd. On est d'accord d'ailleurs. Certains disent le problème, ça n'est pas le bizutage. Hein. Certains me rappellent leurs souvenirs d'il y a quelques années ou d'il y a 20 ans, à l'instant, je lisais, d'un bizutage, bon enfant, qui s'est bien passé. Et vous dites le problème n'est pas le bizutage. Le problème, c'est les abus qui en découlent. Hein. Il y a des bizutages bon enfant et il y a des gens qui abusent d'un supposé pouvoir. Tout à fait. Mais l'article ne dit pas que le problème est le bizutage. Hein. À aucun moment, même pas dans le titre. L'article. C'est mon titre qui est problématique, pardon. Moi, j'ai écrit le procès du bizutage. Oui, c'est le procès des excès du bizutage. Bien sûr. C'est juste que c'est un problème de place, quoi. Ça rentre pas. C'est trop long. Bien sûr, vous avez raison. Mais dans mon propos et dans l'article du Parisien, ce n'est pas le bizutage qui est en cause. C'est bien sûr les excès du bizutage. Merci Dracos pour ton témoignage. Alan, dame, j'ai assisté en invité à ce type de soirée, donc médecine. Ce sont de véritables orgies. Les étudiants en médecine relâchent lors d'une soirée des mois et des mois de pression. Il y a sans doute quelque chose à revoir également dans l'accompagnement psychologique des étudiants durant leur parcours. Moi, j'ai un de mes neveux, j'ai quatre neveux et nièces que j'adore, qui sont formidables, qui sont les enfants de mes frères et sœurs qui ont eu des enfants avant moi, et donc qui sont grands, pour certains. Ils sont tous en études supérieures, sauf une qui est en fin de lycée. Alors que moi, mes enfants sont encore tout petits, vous voyez, je suis très en retard, alors que je suis le grand frère. Voilà, je ne suis pas très rapide, le Sam. Mais et je vous dis ça parce que j'ai un de mes neveux adorés qui est en première année de médecine. Bon, c'est une machine de guerre. C'est un enfant assez étonnant. Et je vois sa vie aujourd'hui, sa vie d'étudiant en première année de médecine. Donc, c'est un enfant qui s'est toujours mis énormément de pression tout seul dans ses résultats scolaires, qui sont excellents. Mais sa maman, ma petite sœur que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, m'a expliqué que... c'est le petit frère d'Axel. M'a expliqué que... il se donnait le droit à 15 minutes de relâche par semaine. Alors, je vais faire répéter ma petite sœur. Par jour ou par heure, par semaine, le gamin se donne 15 jours de relâche par semaine. Et là, en général, il va marcher. Donc, et ceux qui connaissent un peu l'univers, il y a eu un film là-dessus, hein, de la première année de médecine, effectivement. Bon, là, c'est un peu extrême parce que cet enfant est très exigeant avec lui-même. Voilà. La première année de médecine, ça ressemble à ça, quoi. Donc, effectivement, qu'une soirée de fin d'année soit la soirée de tous les délires, de tous les relâchements, je peux le comprendre. Donc ces enfants-là, il faut les... On sous-entend quoi par relâche? Il va marcher 15 minutes. C'est long. Le reste du temps, c'est travail, alimentation et sommeil. S'il vous plaît, il ne faut pas abuser, il n'y a pas besoin de ça pour réussir, etc. Sauf que lui, il veut être major de ta promotion. Après, chacun ses rêves, chacun ses projets, tu vois, ça c'est un truc. Et ce qui est, d'ailleurs, ce qu'il est en train... Pour le coup, les résultats provisoires du début, là, c'est effectivement son classement. Il se tire la bourre, ils sont deux. Bon, ça, c'est bon. Après, c'est son délire, tu vois. Mais tu vois, un type d'enfant comme ça, il faut l'accompagner aussi. Parce que bon, c'est un choix. Pour le coup, la pression ne vient pas des parents. Mes parents, je les connais bien, c'est ma sœur et mon beau-frère. Je peux vous dire que la pression ne vient pas du tout des parents. Voilà. Et il se la met tout seul. Mais il a toujours été comme ça. Bon. Mais cet enfant, malgré tout, il faut aussi le protéger contre lui-même. C'est-à-dire que c'est excessif, évidemment, ce rapport au travail. Et donc, il faut l'accompagner. Il faut. Si c'est ce qu'il souhaite, bon, ben, c'est ce qu'il souhaite. Mais il faut l'accompagner. Il faut faire attention à lui. Voilà. Et c'est un enfant très attachant. C'est un enfant d'une gentillesse, d'une intelligence rare, quoi. Mais il faut l'accompagner. Et notamment, quand il y aura des moments de relâche, type soirée et bisutage, lui qui, vous l'avez compris, ne sort pas, si il marche 15 minutes par semaine, ne sort pas, ne fait pas la fête, effectivement, potentiellement, c'est un profil qui peut vite être abîmé par ce genre de fête, quoi. Voilà. Donc moi, je sais que donc là, il est en première année. Moi, je sais que je suis très proche de mes neveux et nièces qui sont formidables. Je sais qu'à un moment, c'est une discussion que j'aurai avec lui. Je dirais, tu sais, moi j'ai lu beaucoup d'articles sur le phénomène du bizutage et des soirées extrêmes dans ton milieu. Je te demande de faire attention à toi, quoi. Et de faire attention aux autres aussi, d'ailleurs. Parce qu'on parle quand même de futurs médecins, quand même. Ouais. Encore une fois, sur beaucoup de sujets comme ceci, plus on en parle, plus on communique autour de soi, plus on sensibilise, plus on peut éviter des drames, quoi. Hein, Archange écrit, après on peut se faire avoir par l'alcool même sans ça. Moi j'ai fait un coma éthylique, dit Archange, à 18 ans, bêtement, parce que je ne savais pas boire. Malgré une bonne éducation et tout, je me suis fait avoir sans m'en rendre compte. Dangereux. Le meilleur moyen de se protéger, dit Alan, c'est de l'inciter à ne pas aller à ses soirées. Honnêtement, il ne perdra pas grand-chose. Mais est-ce que ce que disent certains étudiants en médecine est vrai? Par exemple, ce jeune homme qui est mort, là, Simon. Lui, il disait à ses parents, lui disait, mais est-ce que tu es obligé d'aller à cette soirée? Et lui a répondu, je suis obligé d'y aller, parce qu'en deuxième année, si je ne suis pas allé à ces soirées d'intégration, on me le fera payer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est vrai, ça? Je pense qu'il y a des gens ici qui ont fait médecine. Il y a des gens qui sont peut-être en médecine. Voilà. Est-ce que c'est vrai, ça? Sifreguir dit oui. Asmonel dit oui. Nashweba dit oui, j'ai des amis en médecine et c'est véridique. Voilà. C'est vrai, me dit Marco Rico. Oui, Nisli. Oui, Tau Grec. Voilà. Tu n'as pas d'amis après, c'est pareil en STAP, me dit Florent Twitch. C'est vrai, me dit Zudrak. Voilà. Vous voyez? Donc, t'as qu'à lui dire de ne pas aller à ses soirées, c'est peut-être plus compliqué. C'est peut-être plus compliqué. Après, ça dépend, hein, peut-être des écoles aussi. Artix me dit, moi j'ai fait médecine, c'est non. Pas dans mon école en tout cas, me dit Tony Glandil. Magnifique pseudo, je pense que vous avez peut-être la ref. Ah, Tony Glandil. Pas dans mon école en tout cas, mais ça te coupe du reste de la promo. Alors, ça te coupe du reste de la promo dans des études qui sont très très difficiles, quoi. Où t'as un peu besoin aussi un peu des autres quand même. Et pas qu'en médecine, bien sûr. Là, on parle de médecine, mais pas qu'en médecine, hein. C'est vrai aussi dans d'autres écoles. Voilà. Black Diamond nous dit oui, si tu participes pas, t'as pas les autres qui te passent les cours quand t'es malade, t'as pas de soutien, c'est vrai en médecine, en école veto. Voilà. Il y a des témoignages quand même qui viennent confirmer ce phénomène. Ok. Donc voilà. Bon, attendons ce procès. Mais voilà, le fait même qu'il y ait un procès, le fait même qu'il y ait un article, le même fait que nous en parlions, eh ben c'est une bonne chose parce que on communique là-dessus les uns les autres. Vous allez en parler autour de vous, je le sais. On se sensibilise mutuellement avec ces informations. Et c'est comme ça qu'on avance sur ces sujets. Voilà. Merci aux Parisiens, qui est un journal qui parle très souvent de ces sujets. j'ai l'impression, plus que d'autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Voilà. Donc merci à eux en vrai. Voilà. Je vais mettre un coup de chauffage parce que je crois que j'ai une fenêtre ouverte. Comme il y a des travaux dans l'appart à côté là, où il y avait un bébé avant là. Du coup, il y a des effluves de peinture et de solvant. Du coup, j'ai aéré et je caille. L'accident d'Espagne, je vais vous en parler. L'accident dans l'espace, je vais vous en parler. Alors. Je vais vous en parler pour vous dire que je ne vais pas vous en parler. Je vous explique. Hier, vous m'avez interpellé, vous avez eu raison. Non, oh là là, est-ce que tu as vu le drame en Espagne, les deux trains à grande vitesse qui se sont percutés en pleine ligne droite, le truc de fou, quoi. Donc on en a parlé hier, on est allé voir le bilan, on est allé voir le... Et on s'est dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Deux TGV qui, littéralement, quasiment se percutent, quoi. Sur deux voies différentes, hein. En gros, il y en a un qui a déraillé, une partie des voitures ont déraillé et sont venus percuter le TGV qui arrivait pleine bourre en face. Genre 200 km/h, quoi. Donc il y a des dizaines de morts. Et donc ce matin, j'ai lu les articles dans la presse pour essayer d'aller plus loin. Le plus loin, c'est, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et dans la presse, il n'y a pas de réponse. Dans l'état actuel des connaissances autour du sujet, des informations, et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il y a des interrogations sur peut-être l'état des voies, mais pourtant elles avaient été rénovées, l'état des trains qui était récent. Donc j'ai lu tous les articles ce matin, mais on ne va pas avancer sur le sujet. Voilà. Donc les infos, je vous les ai données hier. En revanche, dans les prochains jours, si je trouve dans Le Monde, dans Libération, dans Le Parisien, dans Le Figaro, que sais-je, un article qui nous attention, c'est pas les TGV. Bah, la presse disait hier des TGV. Hein. Enfin, des trains à grande vitesse. Hein. C'est pour ça que je dis trains à grande vitesse. Hein. C'est pas un TGV français. Hein. Mais moi, on m'a dit 200 km/h, ça me paraît être un train à grande vitesse, non? Salut, pantoufle. Oui, parce que. On est d'accord, c'est un train à grande vitesse. 200 km/h, non? C'est bien pour ça que j'ai dit train à grande vitesse, c'est pour éviter le fameux « Ah mais c'est pas un TGV, parce que le TGV c'est une marque !» C'est pour ça que j'ai dit train à grande vitesse. Franchement, si c'est ça le niveau de débat qui vous intéresse, moi je préfère m'interroger sur qu'est-ce qui a tué 40 personnes, quoi. Voilà, c'est un train à grande vitesse espagnol, quoi. Donc on sait pas, et je suis quand même très embêté avec cette histoire, quoi. Donc dès que je trouve un article qui nous donne un petit peu des informations sur le sujet, je vous le lirai bien sûr, mais là, on n'est pas avancé par rapport à hier, quoi. Il y a eu des TikTok de gens qui se plaignaient de l'état des voies des jours avant dans les TGV qui tremblaient dans tous les sens. Ah, j'ai lu ça, ouais. Effectivement, il y a cette piste de l'état des voies. Tu as raison. Ouais. Seb dit, j'entends pas beaucoup de petits sons préparés hier. Alors l'actualité est tellement lourde ce matin que voilà, j'évite de faire le foufou. Il y a des actus sur lesquels l'humour est impossible. Évidemment, sur les deux premiers sujets de ce matin, hein, que vous avez vu, c'est-à-dire le harcèlement scolaire et les dérives du bizutage avec les décès derrière, vous imaginez bien que ce matin, je suis pas en mode pump it up, quoi. Ok. Mais ce dont tu parlais, par rapport au bizutage, c'est quoi je viens d'arriver, Iron Genji? Alors pour toi, Iron Genji, il y a ce qu'on appelle le replay, puisque je viens de parler pendant une demi-heure de ce sujet. Tu l'as en replay, sur Twitch si t'es abonné, sur YouTube sinon, en podcast audio à partir de 15-16 heures. N'hésite pas. Sujet suivant. Alors là, le gros sujet de ce matin. Voilà. Avec Monsieur Trump. Pourquoi Trump ce matin, est-ce qu'il a dit une nouvelle dinguerie? Oui, si on gratte bien, on va en trouver une hein, d'ici, depuis hier. Oui, bien sûr. Mais surtout parce que ça fait un an. Voilà. Un an que Trump est revenu au pouvoir pour son deuxième mandat. Voilà. Alors moi, je suis assez fier de mon titre. Voilà. Un an de Trumpitude. Voilà. Trumpitude qui rime avec turpitude, qui est un mot utilisé par l'humanité. Et alors, un an de pouvoir, un an, mais en ressenti beaucoup plus. Hein, c'est vrai que régulièrement dans le chat, à propos de Trump, on me dit un an seulement, waouh, mais il y a eu tellement de dingueries déjà depuis un an. Hein, et du coup, Libération, vous le voyez ce matin, titre, un an, Trump, mais ressenti un siècle. Traque des immigrés. En quelques mots, dans ce chapeau de Libé, en quelques mots, il y a le best-of de Trump, en 12 mois seulement. Traque des immigrés. Guerre économique. Attaque contre le climat. Et la science. Complicité avec Poutine. Projet de Riviera à Gaza, vous vous souvenez ? Enlèvement de Maduro. Menace d'annexion du Groenland. Un an après le retour de Trump, son bilan donne le vertige.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
Voilà, un an seulement. Alors, donc il y a un gros dossier dans Libération et il y a un gros dossier dans l'Humanité. Bon, tous les journaux en parlent ce matin. J'ai choisi l'Huma et Libé parce que c'était les plus gros dossiers ce matin sur le sujet. Mais le Figaro en parle et en termes pas sympathiques pour Trump. Il n'y a pas un journal ce matin qui dit du bien de Trump hein, par rapport à tout ça. Le Figaro en parle, l'Opinion en parle, les Échos en parlent, le Parisien en parle. Mais les deux plus gros dossiers, c'est dans Libé et dans l'Huma. Voilà. Une année en enfer. Titre, Libé. Depuis son retour à la Maison-Blanche, il y a un an, le milliardaire républicain a bouleversé l'ordre mondial, fragilisé comme jamais les institutions de son propre pays. Lisons tranquillement ce dossier. Article de Benjamin Delisle, qui est correspondant à Washington. Par où commencer ? Depuis un an, il en reste trois, hein ? Il en reste trois. Le monde à la tête sous l'eau, le crâne fermement tenu par un homme qui, avec une insupportable frivolité, parce qu'en plus il fait des blagues, hein, c'est un blagueur, inonde la terre entière de sidération par ses décisions invraisemblables, ses discours erratiques et la folle capacité de nuisance que lui confère la présidence de la première puissance mondiale. Donald Trump, car il faut bien le citer, s'est encore démarqué ce week-end en menaçant plusieurs pays européens de nouveaux droits de douane, donc ça on a vu ça samedi, parce qu'il s'opposait à sa volonté de s'approprier le Groenland, déflagration qui sera au cœur d'une réunion d'urgence de l'Union européenne. Ce sera jeudi. Merci John Odu pour le raid. Merci à toi. Merci Giros, Viandox, Cyril pour les subs, pour les soutiens. Oui, Zératique, parce que j'aime bien faire les liaisons. La veille, le président américain sera venu narguer chez eux ses anciens alliés au Forum économique de Davos en Suisse, où l'attend un discours à son image tout en outrance. DJ Nono du 02. Ah, c'est DJ Nono du 02, pardon. J'ai très mal lu le pseudo. Un DJ donc ? Un confrère alors ? Moi aussi je suis DJ maintenant. Son retour au pouvoir, par un 20 janvier polaire à Washington, n'a pas simplement jeté un froid qui continue de nous tétaniser. Il semble avoir tourné une page de l'histoire contemporaine. Le catalogue de son action à la tête des États-Unis est presque impossible à tenir tant il est dense, indigeste. Nous sommes un pays dirigé par un mégalomane dont les opinions sont ouvertement haineuses et fièrement ignorantes, dont l'avarice est sans limite, dont la revendication est le pouvoir absolu. Apprenti DJ, dit Tupac, Tupac, apprenti DJ, mais toi t'es mort. Tupac, donc, s'il te plaît. Désolé, j'adore cet artiste. C'est ce que résume un éditorial du New York Times. Au cours d'une seule petite année, qui semble avoir duré un siècle, le milliardaire a plongé à vitesse accélérée son pays dans l'illibéralisme et tenté par tous les moyens d'imposer au monde sa réalité, avec pour unique vérité celle qui sert ses intérêts. Illibéralisme, un mot qu'on ne trouve pas souvent, dont on va rappeler la définition illibéralisme. Illibéralisme. Définition. L'illibéralisme est un rejet des principes de la vision libérale. Attends, la définition elle est pourrie là. Attends. Est-ce que je pourrais vous trouver une définition un peu carrée de l'illibéralisme ? Ouais, c'est ça. Pas mal ça. Ok. Là, c'est Orban qui utilise ce terme de démocratie libérale, qui a été forgé a priori par un politologue américain qui s'appelle Farid Zakaria, employé pour la première fois en 1990. Donc c'est un mot assez récent quand même. Hein. Il désigne, qu'est-ce que c'est une démocratie illibérale, illibérale. Un régime qui repose sur le respect des élections, hein, mais qui défie, se défie des autres aspects de la démocratie. Voilà. Une démocratie, elle n'est pas qualifiée. Vous n'avez pas l'article que je montre là. Uniquement par des élections libres. Hein, il y a plein d'autres choses. Le respect des contre-pouvoirs, l'existence de contre-pouvoirs, le respect de ces contre-pouvoirs, le rapport aux libertés individuelles, etc. Donc, un régime qui repose sur le respect des élections, quoique on a un président Trump qui commence à s'interroger, soi-disant en blaguant, sur est-ce que c'est bien nécessaire de tenir les élections dans un an, les élections de mid-terme, donc même cette définition, est-ce qu'elle s'applique encore à Trump ? Vraie question. Un régime qui repose sur le respect des élections, mais qui se défie des autres aspects de la démocratie, c'est le détournement des outils démocratiques à des fins illibérales. Les dirigeants sont démocratiquement élus, mais ils privent leurs citoyens de leurs droits fondamentaux. Ils contestent l'indépendance de la justice, veulent se soustraire à la remise en cause de leur pouvoir, et affaiblissent tous les contre-pouvoirs. L'illibéralisme doit être compris comme une idéologie qui regarde avec scepticisme le libéralisme tel qu'il existe aujourd'hui. On a aussi un président, vous rappelez, Trump, qui ne voulait pas reconnaître sa défaite, par exemple, aux dernières élections, les fameuses élections truquées, alors que tous ses proches républicains, conservateurs, y compris le vice-président de l'époque, disaient bah, tu racontes n'importe quoi, il y a zéro fraude, quoi. Donc, un président qui affirme quand il est élu que les élections se passent bien et quand il n'est pas élu que les élections sont truquées, c'est une forme de définition de l'illibéralisme, par exemple. Donc j'ai fait une petite pause sur ce terme. Avec pour unique vérité, quelle est la vérité de Trump ? Celle qui sert ses intérêts. Chez lui d'abord, en commençant par démanteler par le menu l'État fédéral, sous la main, donc là on va revenir sur un an de Trump, hein, désolé c'est un peu long mais c'est intéressant. En commençant par démanteler par le menu l'État fédéral, sous la main de l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, dont le premier fait d'arme fut de mettre à sac l'agence de développement USAID, et avec elle, les maigres ressources envoyées aux personnes les plus pauvres dans le monde. Régulièrement, je vois passer des sujets, des dossiers sur les conséquences au niveau de l'aide humanitaire mondiale et les millions de morts potentiellement que cela va provoquer, hein, la coupe dans les budgets de l'USAID. Un jour, je vous ferai un petit dossier là-dessus. Puis, une fois la rupture consommée avec Donald Trump, puisqu'ils se sont fâchés, Musk et Trump, résultat, plus de 300 000 employés fédéraux renvoyés ou démissionnaires, puisqu'il y a eu des coupes, vous savez, dans les services publics américains, plus de 300 000 employés fédéraux renvoyés ou démissionnaires, des agences des ministères presque entièrement démantelées ou remodelées lorsqu'il concerne des sujets que Trump et les siens méprisent, le climat. Rappelons que le président Trump estime que le réchauffement climatique, les changements climatiques, c'est une fake news. Il l'a redit devant la tribune de l'ONU il n'y a pas si longtemps. La science, pas si important, de grandes coupes dans tous les programmes de recherche aux États-Unis, sauf ce qui intéresse directement les intérêts du président, et l'éducation. Le président a aussi utilisé les fonds fédéraux comme une arme politique, notamment contre les universités qu'il accuse d'être des temples du wokisme, notamment le célèbre Harvard, Columbia et autres, alors que son administration s'est employée à supprimer tous les programmes DEI pour diversité, équité et inclusion. Au-delà de la bataille culturelle, cet assaut contre ce qu'il appelle l'État profond était aussi justifié par une baisse nécessaire d'un déficit public qui n'a pourtant pas bougé. En réalité, il s'agissait de soumettre l'appareil fédéral aux seules décisions du pouvoir exécutif devenu presque omnipotent. Grâce à une majorité républicaine très obéissante au Congrès et à l'appui d'une Cour suprême qui lui est largement favorable, puisque vous avez une majorité de juges de la Cour suprême aujourd'hui qui sont conservateurs, dont certains ont été nommés par Trump, notamment lors de son premier mandat, hein, vous vous en souvenez. Trump a donc mis à mal l'équilibre des pouvoirs, hein, le fameux checks and balances, qui fait la fierté d'une démocratie américaine qui doit fêter en 2026 ses 250 ans. Triste anniversaire tant elle semble menacée par celui qui devrait en être le garant de cette démocratie, un occupant de la Maison-Blanche qui joue plus au propriétaire qu'au locataire. Pourquoi tenir de nouvelles élections ? hein, dit-il en substance en ce moment, alors que les Américains sont derrière moi, en témoigne la destruction sans préavis de l'aile du bâtiment à l'automne, où il a fait une belle salle de bal à la Maison Blanche. L'expression la plus féroce de cette dérive fut incarnée par la politique migratoire. Fidèle à sa promesse d'organiser la plus grande expulsion de masse de l'histoire américaine, Donald Trump et son conseiller Stephen Miller, qui rêve lui de voir l'Amérique redevenir essentiellement blanche, a envoyé sa fameuse police migratoire, responsable de la mort d'une femme, d'une mère de famille, il y a quelques jours, vous le savez, traquée jusque dans les tribunaux, les églises, les écoles, les immigrés. Libérant une horde d'agents masqués, lourdement armés, souvent formés à la hâte, qui ont semé la terreur en arrêtant au faciès tous ceux qui ressemblaient de près ou de loin à un étranger en situation irrégulière. Pour appuyer cette opération, Trump a déployé la garde nationale dans la plupart des villes démocrates qui s'étaient proclamées sanctuaires ces dernières années pour ces personnes arrivées aux États-Unis en quête d'une vie meilleure. Bon nombre ont fini dans des prisons parfois construites à la hâte avant d'être renvoyés souvent à l'autre bout du monde. Le département de la sécurité intérieure a déclaré en septembre avoir expulsé 622 000 personnes des États-Unis depuis le 20 janvier 2025. 622 000 personnes expulsées. Il a aussi avancé le chiffre invérifiable d'1,9 million de migrants qui auraient volontairement décidé de quitter le pays. Les autres se tairent désormais de crainte d'être à leur tour enlevés. Cette seconde présidence de Trump, écrit Libération ce matin, est aussi celle d'une collusion assumée et d'une accélération formidable de la corruption en col blanc. Dans tous les domaines, l'ex-magnat de l'immobilier échange des avantages politiques contre des faveurs. Ce sont les grands patrons de la tech qui s'agenouillent en échange d'une politique de dérégulation totale. Ses fils qui prospèrent grâce au commerce de crypto-monnaies, que le père fait fructifier par sa simple présence dans le bureau ovale. Ou encore ses anciens partenaires du monde de l'immobilier qui sont propulsés conseillers diplomatiques, notamment sur le Proche-Orient, pour être en première position d'investissement juteux à l'étranger. Tel un Néron des temps modernes, Trump favorise les siens, gracie les criminels à tour de bras, au premier rang desquels les émeutiers du 6 janvier, qu'il a sacralisé en héros pacifiques victimes d'un complot démocrate. Les pauvres assaillants du Capitole. Surtout, il instrumentalise la justice pour se venger de ceux qui l'ont offensé. De James Comey, ancien directeur du FBI, qui avait eu l'audace d'enquêter sur ses liens avec Russie, à Laetitia James, procureur général de New York, qui lui avait infligé une amende stratosphérique pour ses fraudes avérées, en passant par son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, coupable d'être devenu trop critique sur sa politique étrangère. On pourrait parler du patron de la Fed aujourd'hui, hein, qui est harcelé par le président Trump parce que le président de la Fed n'applique pas la politique monétaire que Trump souhaiterait. Là, Libé n'en parle pas, mais je pense qu'on pourrait l'ajouter. Tous trois ont eu affaire à une justice mise au pas par un président qui a nommé la tête du ministère les avocats qui l'avaient défendu dans les multiples procès, dont un pour lequel il a été condamné et qui l'aura finalement effacé grâce à son retour au pouvoir. L'assassinat de Charlie Kirk. Devenu martyr d'une idéologie fascisante que le président a portée au sommet de l'État, a été l'occasion de criminaliser une partie de l'opposition qui tente tant bien que mal de manifester son désaccord dans la rue. Le voici unanimement taxé d'antifasciste et le supposé mouvement labellisé comme une dangereuse organisation terroriste. Ça, c'est pour l'intérieur, c'est pour les États-Unis. La cote de popularité de Trump, d'ailleurs, aujourd'hui, aux États-Unis, elle est très faible. Hein. Il y a un article ce matin qui dit que, je ne sais pas si c'est vrai, c'est l'Humanité qui dit ce matin que jamais un président n'avait une cote de popularité aussi faible après un an de mandat. Je ne sais pas si c'est vrai. L'Humanité le dit. Salut Moumouren Desmouettes qui nous dit bonjour Samuel, que des bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est un peu l'inverse, c'est un peu lourd ce matin. Et je m'en excuse. Ça, c'est pour l'intérieur. L'étranger maintenant. Ce modèle autoritaire, Donald Trump essaie aussi de l'exporter en soutenant des mouvements d'extrême droite à l'étranger et en refaçonnant le monde à son image pour faire fructifier ses deniers. Élu sous la promesse auprès de ses électeurs de se désengager et désengager le pays des problèmes internationaux, il aura finalement placé la politique étrangère au centre de sa dérive égotique avec une nouvelle forme d'impérialisme. Autoproclamé président de la paix, se targuant sans cesse d'avoir réglé 8 conflits en faisant généralement signer sous la contrainte des cessez-le-feu précaires, Trump aura surtout été le dirigeant américain le plus interventionniste à l'étranger de l'histoire des États-Unis dans une première année de mandat. 8 bombardements, dont un, le plus récent au Venezuela pour enlever l'autocrate Maduro, qui fut la preuve ultime de son mépris pour le droit international et sa volonté d'en finir avec un ordre multipolaire. Dans l'esprit du président des États-Unis, tout cela s'inscrit dans sa logique « America first », sans qu'on comprenne bien comment son agressivité à l'étranger va améliorer la vie des Américains, de ses concitoyens. Il ramène le monde plus d'un siècle en arrière, assume dans sa stratégie de sécurité nationale que le continent américain devient ou redevient la chasse gardée de Washington et abandonne ses alliés d'hier, vous le voyez tous les jours, l'Union européenne en tête, éprouvant un dégoût profond pour le modèle démocratique qu'elle incarne. Ce que Trump voudrait, et il le dit, hein, nous ne sommes pas dans l'interprétation ou l'analyse, ce que Trump voudrait, c'est que des partis nationalistes et d'extrême droite prennent le pouvoir dans les pays européens. Il trouve que ce serait des alliés plus intéressants. En témoigne ses vues impérialistes sur le Groenland ou sa gestion calamiteuse du dossier ukrainien, où il tente sur fond de collusion avec un Vladimir Poutine qu'il admire et qui lui promet des montagnes de deals d'imposer une paix injuste sans se soucier des conséquences dramatiques pour la sécurité de l'Europe. Sous son règne, voici venir l'heure des prédateurs, où le monde se partage entre grandes puissances expansionnistes, États-Unis d'un côté, Russie et Chine de l'autre, et le seul outil de discussion qu'il entend développer n'est pas la diplomatie, mais le business. Car c'est bien sous cette promesse que Trump fut réélu à la tête de la première économie de la planète. Usé de ses talents supposés, l'entrepreneur pour améliorer la vie des Américains. Lui n'a juré que par les droits de douane, tantôt brandis comme une masse diplomatique contre le reste du monde, et surtout comme un outil magique censé réindustrialiser l'Amérique et relancer sa croissance. Le problème, c'est que rien de tout cela ne se produit pour l'instant. L'économie américaine semble tenir essentiellement sur les investissements stratosphériques dans l'IA, qui, outre le caractère volatile, ne promettent pas de relancer l'emploi, bien au contraire. La grande et belle loi budgétaire, selon ces mots, votée à l'été, devrait avant tout réduire l'impôt des plus riches en supprimant les aides aux plus pauvres. Le président de la Réserve fédérale, je vous en parlais, de la Fed, Jerome Powell, constate par ailleurs que les droits de douane contribuent plutôt à entretenir l'inflation qui empoisonne la vie des Américains et que Trump avait pourtant promis de juguler. Voilà pour un petit bilan vite fait. Alors, moi, le problème, c'est aujourd'hui, quand vous voyez les actus passer sur Trump, vous dites non, mais ça c'est inventé, c'est trop. C'est... Et récemment, j'ai vu un courrier à un mot qu'il aurait envoyé à la Norvège, où il dirait, je suis bien conditionnel parce que je veux le vérifier, « Ah, vous n'avez pas voulu me donner le prix Nobel de la paix, puisque l'on rappelle que le comité Nobel est installé en Norvège, à Oslo, je crois. Et donc, ne vous étonnez pas si, en ce moment, je ne parle pas trop de paix. » Alors, on va vérifier cette info, parce qu'elle me semble trop grosse. Mais avec Trump, on n'est jamais déçu. Alors, vous êtes plusieurs à me dire que ça a été authentifié, que c'est vrai. Voilà. Voilà. Je ne suis plus obligé de penser qu'à la paix. Alors, Trump... Alors, moi, je veux vérifier cette info... Parce que je crois que des gens ont voulu la débunker en disant « Mais c'est impossible !» Et les gens vont dire « Vous êtes fait avoir, c'est un fake, jamais Trump !» Et en fait, ces gens, en essayant de débunker le truc, se sont dit « Mais merde, il l'a dit !» C'est vrai ! Trump, paix, Norvège. Et là, la réalité dépasse la fiction, quoi. Hein, Rainbow me dit la Maison Blanche l'a partagé sur son compte. Et vrai, c'est vrai malheureusement. J'ai un article dans BFM, j'ai un article dans Le Figaro, j'ai un article dans Le Point, prenons Le Figaro. Incroyable. Incroyable. Je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix. Trump lie ses ambitions sur le Groenland à son échec au prix Nobel de la paix. Bah, arrêtez les pubs là. Mais vous vous rendez compte? Le niveau du truc. Voilà. Étant donné, donc je cite le communiqué de Trump. Étant donné que votre pays, la Norvège, il écrit au Premier ministre norvégien. Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à plus, il met plus en capital, il met le mot plus en capital parce qu'il aime bien utiliser des mots en capital. Plus de 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix. Voilà. Mais un mec écrit une fiction politique. On lui dit, nous, téléspectateurs, de ce truc-là, on dit, mais non, mais c'est trop bépère. Non, aucun président pourrait dire ça, aucun président américain pourrait tenir ça. On dirait, mais non, arrête, c'est imbitable ton truc. Hein. C'est, pardon, attends.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, c'est abracadabrantesque, exactement. Eh ben si, mais si. Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à plus de 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix, a déclaré Trump dans un message envoyé au Premier ministre norvégien. L'authenticité du message, nous dit le Figaro, a bien été confirmée à l'AFP par une source ayant connaissance du dossier, ainsi que par le Premier ministre norvégien lui-même. C'est... J'arrive. Je vais baisser le chauffage. C'est fou. Oui, comme le dit Verena dans le chat à l'instant, la Norvège a été méchante avec moi, donc je mets la pression sur le Danemark.
Quelle indignité.
C'est fou. Donc je reprends ma lecture. On avait donc le dossier de Libération ce matin. Et l'Humanité propose également un dossier sur cette première année, mandat 2 de Trump à Washington. Je vous lis un petit peu. En fait, il a un comportement de harceleur, dit Nuno. C'est littéralement un enfant de 8 ans, me dit Gregorio, qui fait une crise parce qu'il n'a pas eu son dessert. Je vous lis un petit peu, pardon. t'es bête, ça me fait rire. Qui a dit ça? Inverse distribution. Mais donner le prix Nobel du paix, PET, à cet homme, il ne fera pas la différence. Moi, je constate juste. Il y a l'enclencheur qui est écrit dans le chat. Il va falloir faire attention, nous Français, à notre prochain vote pour notre futur président ou présidente. Il ne faudra pas voter certains partis qui lécheront les bottes des États-Unis comme le RN ou d'autres, écris-tu. Ces partis politiques vendront principalement notre pays, nos industries à Trump, car ils le voient comme un dieu, tout aussi comme certains partis politiques idolâtrent la Chine. Il y avait un article ce matin sur les liens entre RN, le RN et Trump, et comment le RN, ces derniers jours, ces dernières semaines, a commencé à prendre un peu ses distances dans les déclarations de Marine Le Pen et Joan Bardella quant à Trump. Voilà. Mais l'article rappelait toutes les prises de position passées et le fait que Trump lui-même a dit à plusieurs reprises le soutien qu'il apportait au RN et à Marine Le Pen en France, notamment... Quand il a estimé que la condamnation judiciaire de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen et que cette décision de justice était condamnable. Voilà. Donc ça, c'était dans, je ne sais plus dans quel article, dans quel journal ce matin. Je ne l'ai pas mis de côté. Mais bon, c'est un sujet dont on aura l'occasion de revenir.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Un dossier dans l'Humanité sur le même sujet, un an de Trump à Washington, États-Unis, un an de turpitude. Voilà ce qui m'a donné envie de titrer ce matin un an de Trumpitude également. Sous le joug de Trump, écrit Luma, une Amérique martyrisée. Dérégulation de l'économie. Atteinte à l'état de droit. intervention armée. Malgré son impopularité, le président nationaliste n'en déroule pas moins depuis un an son projet de révolution réactionnaire. Donald Trump est le plus impopulaire des présidents américains après un an de mandat. Je m'interrogeais sur la réalité de cette information. Vous avez été plusieurs à me dire dans le chat tout à l'heure que oui, c'est une info. Selon plusieurs médias américains, Trump serait de toute l'histoire des présidents des États-Unis, en tout cas depuis que les sondages existent, le président américain le plus impopulaire après un an seulement. En 12 mois, il est néanmoins l'un des hôtes de la Maison-Blanche qui a le plus avancé dans la mise en œuvre de son projet, et il dispose de tous les leviers pour poursuivre sa révolution réactionnaire. Il y a deux choses à propos de l'année écoulée qui peuvent être vraies en même temps, résume Simon Rosenberg, stratège démocrate. La première est que Trump a causé plus de dégâts au pays, aux États-Unis, que je ne l'aurais imaginé. La seconde, c'est qu'il a été rejeté par le peuple américain d'une manière tout aussi inattendue, puisque sa popularité aujourd'hui, elle est très basse. On attend les élections de mi-mandat, de mid-term, avec impatience. Ce paradoxe dessine donc un pays, les États-Unis, un pays réfractaire, mais martyrisé, dont les anticorps n'ont pas complètement disparu, comme le prouvent les mobilisations citoyennes contre les descentes de la police de l'immigration. Il y a des images très très fortes en ce moment aux États-Unis de ces citoyens américains qui manifestent contre l'ICE, vous savez, la politique de l'immigration. C'est dans le cadre d'une manifestation d'ailleurs de ce type qu'une femme a trouvé la mort abattue de 3 balles par un policier américain de l'ICE il y a quelques jours. Dans l'article ce matin, je lisais que ce policier aujourd'hui n'avait été ni suspendu, ni pour l'heure poursuivi. On suivra ce dossier. En revenant à la Maison Blanche le 20 janvier 2025, le milliardaire disposait d'un plan de bataille élaboré et précis. Le projet 2025 d'une fondation qui s'appelle la Fondation Héritage. À l'époque, il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, c'est pas vraiment le programme de Trump, c'est beaucoup trop extrémiste, c'est pas vrai, c'est pas vraiment son programme. » Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il est allé bien au-delà de ça. Pendant la campagne, le candidat républicain avait tenté de se démarquer de ce projet 2025. Vous vous souvenez de ça? Le contenu du document apparaissant comme trop extrême pour s'attirer les faveurs d'une majorité de l'électorat. On parlera de ce Conseil de la paix, hein, qui est rapporté par plusieurs médias. Je pense qu'il y aura des articles demain sur le sujet. Alors oui, effectivement, Trump, qui n'aime pas trop l'ONU, veut créer un truc qui s'appellerait le Conseil de la paix, mais il faudrait payer pour le rejoindre. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'on manque de temps pour rapporter toutes les dingueries que le gars dit, quoi. Donc, à chaque jour sa peine, ça, on en parlera demain. C'est une info qui est donnée par plein de médias, cette histoire-là. C'est pas une info d'un média en particulier, c'est une info qui est donnée par tous les médias. Bon, on se garde ça pour demain, en vrai, hein. Donc, le projet 2025. Voilà, 1 milliard de tickets d'entrée pour un siège permanent. Allez ! Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Un conseil mondial dont le ticket d'entrée serait 1 milliard. Hein. Tout va bien. À peine entré en fonction, il a pourtant, après avoir dit que ce document ne représentait pas son programme, déployé les cartes des offensives sur le bureau ovale et sonné la charge. Sur le plan intérieur, l'agenda se déroule à peu près comme prévu, à savoir dérégulation de l'économie, baisse des impôts les plus aisés, hein, ce qui satisfait l'électorat républicain traditionnel, mais aussi remise en cause de l'état de droit, droit à la santé, droit au sol, droit à l'éducation, égalité raciale, égalité de genre. Détail, Marie-Cécile Nave, qui est une chercheuse à l'IRIS. Donald Trump a tenu presque toutes ses promesses de campagne, sauf la principale, redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Il a lancé la plus grande opération d'expulsion de l'histoire, transformant l'ICE, la police de l'immigration, en garde prétorienne de la suprématie blanche, au point que Joe Rogan, le podcasteur le plus populaire du pays, soutien de Trump en 2024, compare cette ICE, cette ICE, cette police de l'immigration à la Gestapo. Vous avez un des plus gros podcasteurs conservateurs américains. Soutien de Trump en 2024, ce mec s'appelle Joe Rogan, et lui, il dit que l'ICE, il dit que c'est la Gestapo. Voilà. Trump a satisfait ses plus fidèles soutiens de campagne, présents au premier rang lors de la cérémonie d'ouverture, d'investiture, pardon, les oligarques en faisant voter une réduction massive d'impôts en leur faveur. Sa grande et belle loi, c'est lui qui le dit, votée en juillet 2025, accorde aux classes supérieures 4 450 milliards de dollars d'allègements fiscaux sur 10 ans. Trump ne prétend même plus être le champion des travailleurs. Il est passé du statut de protecteur de la tribu blanche à celui de protecteur d'une centaine d'oligarques américains. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles sa politique ne fonctionne pas. Il a un peu plus dépecé l'État fédéral, confiant cette mission aux milliardaires des milliardaires, Musk, dont la mission fut plus courte que prévu puisqu'ils se sont engueulés les deux, mais aussi efficace que voulu. Selon le Washington Post, 300 000 employés fédéraux, Libération parlait de ces chiffres tout à l'heure, ont été virés sur un total de 2,4 millions. 300 000 sur 2,4 millions. 300 000 fonctionnaires fédéraux. Et nombre de services et missions, aide internationale, lutte contre la discrimination, ont purement et simplement été supprimés. Il a lancé une immense chasse aux sorcières au service de sa contre-révolution culturelle, tentant de mettre au pas les universités, les médias, les intellectuels, à coups combinés de suppression de subventions, de politiques de rachat par des proches, voilà, et de stigmatisation slash intimidation. Et il l'a fait sans opposition institutionnelle. Trump n'a jamais été aussi puissant, estime un chercheur qui s'appelle Romuald Sura. Aucun président dans l'histoire des États-Unis n'a disposé d'autant de pouvoir et d'influence. Le Congrès, à majorité républicaine, a renoncé à son rôle législatif, laissant le président étendre son champ d'intervention presque à l'envi. En un an, les matinales 216 KF, c'est tous les matins. Salut 216 KF, qui me demande c'est quand la matinale ? C'est tous les matins, du lundi au vendredi. Il y a même une revue de presse maintenant le samedi, en général l'après-midi, qui est une revue de presse des bonnes nouvelles, pour un peu vous consoler de toutes les mauvaises nouvelles que je vous rapporte en semaine. Voilà. Mais tous les matins, sans exception, tu as une revue de presse. En un an, 229 décrets présidentiels ont été signés. 229 décrets, c'est plus que durant tout le premier mandat, avec un pouvoir législatif qui s'est décalé du Congrès vers la Maison-Blanche. Le ministère de la Justice, indépendant du pouvoir exécutif, a été transformé en bras armé, lançant des procédures contre les ennemis désignés par Trump. Des juges ont bien tenté de faire prévaloir les droits à les termes de la Constitution, mais ils ont été, dans l'immense majorité des cas, contredits par la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, composée de 6 juges conservateurs sur 9, qui agit comme l'ultime vigie de la révolution trumpiste. Tout cela était plus ou moins annoncé, pas la nouvelle ère des relations internationales. Ah oui. Donc tout cela était plus ou moins annoncé, puisque finalement ce qu'il a fait sur le plan intérieur était dans son programme. Hein. Mais ce qui était en revanche moins annoncé, c'est la nouvelle ère des relations internationales dans laquelle l'ancien champion de l'America First a projeté le monde. Je regarde ce que je vous lis dans l'article parce que je ne vais pas tout vous lire, mais Trump n'a jamais été un isolationniste. L'année 2025 a confirmé qu'il était un interventionniste. De la participation aux côtés d'Israël à la guerre des 12 jours contre l'Iran, vous vous souvenez, au plan néocolonial pour Gaza, la fameuse Riviera, en passant par les bombardements en Syrie. Avec l'enlèvement du chef d'État d'un pays souverain, Nicolas Maduro, donc le Venezuela, et les velléités de prédation du Groenland, il est officiellement passé au stade de l'impérialisme. Nul ne peut prédire l'issue du bras de fer engagé sur le territoire autonome du Danemark. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Mais le sujet fait figure de test ultime. Il met aux prises les États-Unis avec leurs alliés européens historiques menacés de droits de douane supplémentaires. Il l'a annoncé samedi. Et engage de fait l'avenir de l'OTAN. Sur le plan géopolitique, c'est plus compliqué. La Chine résiste d'ailleurs au coup de menton sur les droits de douane. Et fait tout pour apparaître aux yeux du Sud global comme le pôle de stabilité mondiale. La Russie n'a pas l'intention de mettre un terme à la guerre contre l'Ukraine. Le Moyen-Orient est une zone complexe, dit la chercheuse Marie-Cécile Nave. Trump rend le monde actuellement amoureux de la Chine, va même jusqu'à considérer le FT, le Financial Times, qui est un grand journal américain qui parle d'économie et de finances. Voilà. J'ai vu qu'il y a des pays européens là, qui essaient de, de renforcer leur relation avec la Chine. Je crois que l'Allemagne notamment, la Chine qui apparaît aujourd'hui comme un pôle de stabilité par rapport aux États-Unis de Trump. Le Premier ministre canadien a d'ailleurs récemment rencontré le président chinois Xi Jinping pour célébrer un nouveau partenariat stratégique. Certains disent que Trump est en train de... Le FT est britannique ? Autant pour moi. Erreur de ma part. Le FT est britannique. Certains disent que Trump est en train de jeter les démocraties occidentales, notamment européennes, dans les bras de Pékin, qui est un régime qui est pourtant problématique à bien des titres. Si le nouvel impérialisme trumpien risque d'affaiblir durablement le statut des États-Unis sur la scène internationale, il place l'hôte de la Maison-Blanche en porte-à-faux avec sa base MAGA. Elle ne fait pas encore défaut à son héros, mais elle est désormais la seule à le soutenir. Et on en vient à l'impopularité record de Donald Trump, parce que ce serait faux de penser que le peuple américain comme un seul homme est derrière Trump, hein, selon un dernier sondage. Réalisé par CNN, 39% des personnes interrogées approuvent son action. C'est le plus faible étiage pour un président américain à ce stade de son mandat, au bout d'un an, donc, sur tous les sujets. Son déficit de soutien est stratosphérique. Moins 16% sur l'immigration. Moins 21% sur l'économie. Moins 25% sur les droits de douane. 58% des Américains estiment que cette première année est un échec. Cet échec a-t-il un avenir ? Électoralement, c'est peu probable. Les élections de mi-mandat en novembre prochain, c'est donc pas longtemps, hein, s'annoncent dans la lignée de tous les scrutins organisés depuis un an avec un puissant vote sanction. Donc, petit état de panique, dit l'humanité, du côté de Washington à l'approche de ces élections de mid-term, comme le confirme la petite phrase récente de Trump, mais en fait, il ne devrait même pas y avoir d'élection. Poétiquement pourtant, il a prouvé depuis un an qu'il n'avait besoin ni d'un soutien majoritaire de l'opposition, ni du Congrès pour faire avancer son rouleau compresseur. Merci Jules pour le soutien. Je vous lis. Et après on lit un appel à créer les États-Unis d'Europe. Oui, je vous lis, Alex. Y a-t-il un vrai risque qu'il n'y ait pas de mid-term ? Non, je ne veux pas y croire. Enfin, le problème avec Trump, c'est que on aurait pu dire plein de fois à propos de décisions qu'il a prises, non, je ne veux pas y croire. Non, je ne veux pas croire qu'il va menacer d'envahir militairement le Groenland. Et pourtant, cette menace, elle existe. Non, je ne veux pas croire que la police de l'ICE de l'ICE qui va mettre en place avec des moyens de fou va commettre tous ces excès, toutes ces violences. Donc, je me méfie beaucoup de cette phrase. Non, je ne veux pas croire qu'il va laisser ses partisans marcher sur le Capitole à la fin de son premier mandat. Voilà. Alors, donc, moi, j'aimerais te dire ce matin, non, je ne voudrais pas croire qu'un président comme Trump pourrait empêcher la tenue des élections de mi-mandat, hein, qui, je le rappelle, vont renouveler pour partie le Congrès, Chambre de représentants et Sénat. Mais le problème, c'est que souvent, l'actualité dément ce genre de pari, quoi. Je vous lis. Et s'il décide de ne pas organiser cette élection, quel contre-pouvoir pourrait l'empêcher ? Vraie bonne question. Le contre-pouvoir existe, mais Trump, la manière dont il gère le pays et les rapports de force, a réussi à affaiblir ses contre-pouvoirs. Alors, le constat de Vanitas est très inquiétant parce que j'aimerais que Vanitas ait tort, mais je pense que tu n'as pas tort. Vanitas, 62 de points. Il sait d'un côté qu'il ne peut pas se représenter. Hein, il n'a pas le droit, à ce jour, de faire un troisième mandat. C'est interdit par la Constitution américaine. Donc, peu importe la popularité, puisqu'il ne peut pas y avoir de nouveau mandat. Mais il sait aussi de l'autre côté qu'il peut suffisamment abîmer la démocratie américaine pour nuire aux prochaines élections. Et c'est ça qu'il a évidemment tenté de faire. Est-ce que le projet, c'est pas de tout faire pour qu'un proche, un vice-président comme J.D. Vance, par exemple, soit en mesure de lui succéder, lui ou un autre, d'être élu troisième mandat. C'est pas troisième mandat consécutif. Il n'y a pas de possibilité de troisième mandat aux États-Unis. Le maximum de mandats dans la Constitution américaine, c'est deux mandats consécutifs ou séparés. Il ne peut pas faire troisième mandat ni dans trois ans, ni dans sept ans. Voilà. Ça, c'est ce que prévoit. Mais est-ce que son projet, c'est pour préserver ses intérêts? Par exemple, le fait de ne pas être poursuivi en justice sur beaucoup de, dans beaucoup d'affaires, ou ses intérêts financiers et économiques personnels. Hein. Est-ce que le projet n'est pas d'installer au pouvoir dans trois ans quelqu'un de proche idéologiquement, voire avec un espèce de deal, quoi. Là, je fais tout pour que tu sois élu, puis après tu me mets bien, quoi. C'est un businessman, non hein. Oui, c'est vrai. Glox House a raison. Salut Glox. J'entendais à la radio hier soir que beaucoup de ces mesures, notamment économiques, comme les tarifs, tu parles des droits de douane supplémentaires, n'aboutissaient pas, car in fine, c'est le Congrès qui valide la mise en exécution. Pourquoi on ne parle pas plus de cela dans la presse? Ça permettrait de briser son image de tout-puissant. Il y a une décision, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va suivre dans les prochains jours. La Cour suprême doit se prononcer sur la légalité de ces droits de douane supplémentaires décidés par le président et non pas par le Congrès. Il y a un monde, où la Cour suprême dit c'est illégal. Trump lui-même le craint. Il en a parlé publiquement, il a dit ce serait une catastrophe pour moi et pour ma politique. Voilà. Sauf que cette Cour suprême, elle est dominée par des gens qui sont plutôt proches de Trump, donc on attend cette décision. Mais Trump a dit publiquement qu'il redoutait cette décision. La Cour suprême nommée par Trump. La Cour suprême dont certains membres ont été nommés par Trump. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, moi j'aimerais vous parler d'un autre sujet. Sur la réponse européenne à tout ça. Bon, l'Europe aujourd'hui est menacée, hein, intimidée, jusqu'à devoir le président américain brandir une éventuelle intervention armée, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit, pour prendre le contrôle du Groenland, actuellement administré par un pays de l'Union européenne et de l'OTAN qui s'appelle le Danemark, qui est un des plus fidèles alliés des États-Unis en Europe, qui lui achète régulièrement du matériel militaire. Voilà. Donc la question, c'est quelle est la réponse de l'Europe? Voilà. Quelle peut être la réponse de l'Europe et quelle sera la réponse de l'Europe? On en parle tous les jours, depuis quelques jours, et on a une nouvelle proposition ici dans Les Échos sous la forme d'une tribune. Donc c'est pas un article d'un journaliste des Échos, c'est une tribune, c'est une personnalité qui prend la parole pour donner son avis. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui écrit souvent dans Les Échos. Il s'appelle Gaspard Koenig, qui est un philosophe que vous connaissez peut-être. Quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure qu'il l'avait eu en prof. Et lui, il ressuscite, Gaspard Koenig, une vieille idée qui est les États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe, c'est tout simplement une Europe, une Union européenne plus intégrée, hein, avec des abandons de souveraineté, notamment sur la défense, sur la diplomatie, pour que l'Europe parle de plus en plus, diplomatiquement et militairement, d'une seule voix. Voilà. L'Europe aujourd'hui qui est fragilisée parce que notamment divisée. C'est une vieille idée, ça n'a rien de nouveau. Mais elle intervient dans un contexte qui, lui, est nouveau. Je lis. Pourquoi ? Demande Gaspard Koenig. ne pas fédéraliser. Fédéraliser au niveau européen. La gestion de l'armée. Donc avec une armée supranationale. Hein. Et la diplomatie. Et décentraliser davantage les politiques du quotidien au niveau des collectivités territoriales. Bon, je lis, vous me dites ce que vous en pensez. Raphaël Glucksmann, eurodéputé et figure de la social-démocratie, a martelé cette semaine qu'il est temps de construire les États-Unis d'Europe. Bon, ça j'avais raté, mais manifestement, Glucksmann en parle. En pleine révolte agricole contre le traité du Mercosur, et alors que certains élus retirent le drapeau européen de leur mairie, il faut lui reconnaître le courage de ses convictions. Le fédéralisme européen, qui est une très vieille idée, hein, n'est pas vraiment à la mode, y compris à Bruxelles, où la bataille sur le budget 2028 reste picrocolline. Drôle de moment pour ressusciter cette vieille idée des États-Unis d'Europe, qu'on doit à Victor Hugo. L'expression est de Victor Hugo dans un discours de 1849 au Congrès des Amis de la Paix Universelle. Déjà consacré comme écrivain, tout juste élu député de la Seine, Victor Hugo y déplore les dépenses militaires des décennies précédentes, plaide pour des institutions pacifiques, éliminant la misère à l'intérieur des nations et la guerre entre celles-ci. Et Victor Hugo qui dit... Hein ? Hein, quoi ? The King Bob. C'est ton chouchou, hein ? Le social-libéral Glucksmann. De quoi tu parles, King Bob ? Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est quoi ton histoire ? C'est quoi ton histoire de King Bob ? C'est quoi ton historique de 278 messages déjà modérés ? Merci, Mitsu. Quel est ce... Laissons King Bob de côté, là, c'est pas tellement intéressant, mais... Quel est ce raid de fou ? Merci Mitsugi. Quelle est cette chaîne qui vient de nous raid ? D'où vient ce très beau raid ? Merci à toi. Je te suis... Mais on se connaît... Ah, mais si, je te suis déjà. Je te suis déjà. Je suis cette chaîne. Mitsugi. En mars 2011, j'ai déménagé à Tokyo le jour du tremblement de terre. Depuis, j'ai une vie plutôt atypique et histoire folle que je vous partage en vidéo. Non, je te suis pas IRL, hein. Moi, je suis pas au Japon, hein. Je suis pas un harceleur. Alors, je suis pas au Japon aujourd'hui. Même si j'ai une histoire tendre avec ce pays. Et je bois du café, beaucoup de café. Alors ça, merci Mitsugi. C'est top, ça. Et alors, amis de Mitsugi, vous qui nous rejoignez, qu'est-ce qu'on trouve sur la chaîne de Mitsugi ? Il est interdit du territoire japonais, Samuel. Ne parlons pas de ça, ne parlons pas de ça. Ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? Il y a du stream IRL un petit peu ? C'est un ami à notre ami Citron ? Qu'est-ce que... Racontez-moi un petit peu ce qu'on trouve. C'est Dinomitsu et le Café des Familles, le quotidien au Japon et stream IRL. C'est trop bien ça. C'est la vie super riche et intéressante, me dit Noliram, d'un homme qui vit depuis plus de 10 ans au Japon. Trop bien. Merci pour ton raid. Alors, nous étions en train de lire un article sur les États-Unis d'Europe. On parle de plein de choses, me dit Mitsugi, principalement lié au Japon, mais pas que. Eh ben, merci de ce raid, c'est adorable. Et puis, alors, j'avais King Bomb qui me disait, ah oui ! Ah oui, c'est ton chouchou. Et il me parlait de... Je sais pas ce que j'ai fait encore. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? C'est ton chouchou, le social-libéral Glucksmann. Ah bon ? Bah, d'où ? Je le connais, ce gars-là, Glucksmann, là. J'ai appelé à voter pour lui. Je sais même pas à quoi il se présente. C'est ma cam, ça ? Bah, je croyais que j'étais macroniste, moi. Je croyais que j'étais... Bah non, ça dépend des sources. Je croyais que j'étais macroniste. Je croyais que j'étais d'extrême droite. Je croyais que j'étais un dangereux gauchiste. Je croyais que j'étais un woke. Et je croyais que j'étais aussi un anti-woke. Et en plus, je suis un soutien. Je suis un chouchou de, comment vous dites, Raphaël Glucksmann.
Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas.
C'est fatigant, en vrai, hein. Merci de King Bomb pour le niveau d'analyse, ça fait plaisir en vrai. On poursuit notre lecture. Donc Victor Hugo disait, voilà, le but de la politique grande, de la politique vraie, le voici, conclut-il, faire reconnaître toutes les nationalités, c'est beau ça, restaurer l'unité historique des peuples et rallier cette unité à la civilisation par la paix. Ils sont beaux les écrivains. Après 5 changements de régime et 2 guerres mondiales, cette aspiration n'a rien perdu de sa vigueur. Voilà. Il n'est pas honteux ni ridicule de croire au progrès possible de la civilisation humaine. Elle est belle cette phrase. Elle est belle cette phrase. Il n'est pas honteux ni ridicule de croire au progrès possible de la civilisation humaine. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau. L'Union européenne fournit un cadre propice pour réaliser l'ambition hugolienne. Le principe de subsidiarité est au cœur de ces textes fondamentaux, comme sa devise, l'harmonie dans la diversité. Il permettrait d'effectuer un saut fédéral, donc, sur les aspects les plus régaliens, donc l'armée, la diplomatie, tout en décentralisant encore davantage au niveau des régions et des collectivités territoriales et politiques publiques les plus proches de notre quotidien. Sur le papier, ça a l'air sympa. Entre les deux, l'État-nation, cet ensemble bancal, trop vaste pour la fraternité, trop petit pour l'universalité, serait laissé à son dépérissement naturel. Ah bon ? Donc alors, il y aurait l'Europe et puis les régions, alors ? Et la France, non ? J'aime bien, moi, l'idée de France, pourtant. Ok. Concrètement, il suffirait, dans le cas des institutions européennes actuelles, de faire de la majorité qualifiée, alors ça, c'est pour le côté supranational, le fonctionnement par défaut du Conseil européen, et de donner au Parlement le pouvoir de proposer des lois, alors qu'aujourd'hui, c'est une prérogative exclusive de la Commission européenne. L'Union européenne deviendrait ainsi une démocratie représentative classique et pleinement légitime. Cette belle vision théorique se double aujourd'hui d'une urgence pratique. Comment expliquer que l'Europe, aujourd'hui, soit à ce point méprisée, intimidée, humiliée ? Elle possède pourtant l'une des plus vastes armées du monde, dotée de l'arme nucléaire. 1,5 million de soldats sous les drapeaux contre 1,3 million aux États-Unis. En termes de richesse, si on s'en tient à la mesure classique du PIB, elle figure à une solide deuxième place juste derrière les États-Unis. Salut Madame Gesmer. Elle représente le premier marché au monde, objet de toutes les convoitises. Si on prend les indices de développement humain, elle triomphe aisément de tous ses concurrents. L'espérance de vie en Europe est de 82 ans, 78 aux États-Unis. La mortalité infantile de 3,3 pour 1000, 5,6 aux États-Unis. Les homicides de 2 pour 100 000, 5 pour 100 000 aux États-Unis. Et le respect des droits fondamentaux demeure inégalé. La cause environnementale, malgré de récents reculs, est plus avancée qu'ailleurs. Les problèmes structurels qui minent le vieux continent, délocalisation, bureaucratie, endettement, dépendance énergétique, ont le mérite d'être désormais bien identifiés et de faire l'objet d'un début de prise de conscience. Voilà. Il y a Philizy qui dit « Ouh là là, c'est quoi ces chiffres ?» Tu es étonné que l'espérance de vie est supérieure en Europe qu'aux États-Unis ? Tu es étonné que la mortalité infantile est plus forte aux États-Unis qu'en Union européenne ? Et pourtant, c'est vrai. Les Américains ont de moins bons chiffres que nous en termes de santé. Malgré les milliards dépensés, d'ailleurs, dans la santé aux États-Unis, sauf que ça ne va pas dans les bonnes poches, si je puis me permettre. Seul détail, une fois qu'on a dit tout ça, l'Europe n'existe pas. Elle est dispersée entre 27 capitales qui, malgré les louables efforts d'unité fournis dans la houle géopolitique actuelle, ne peuvent agir ni aussi rapidement ni aussi efficacement que les autocrates des autres continents. La souveraineté européenne, pour laquelle Emmanuel Macron a justement plaidé, reste un concept vide. Elle ne prendra de réalité qu'à la condition d'abandonner explicitement certains pans de souveraineté nationale. Est-ce que les Français veulent abandonner ? C'est ça la question au centre de cet article. Est-ce que les Français sont prêts à abandonner des parts de souveraineté nationale sur les questions de défense, sur les questions de diplomatie, au profit d'une entité supranationale qu'est l'Europe, pour pouvoir s'opposer plus efficacement, par exemple, aux États-Unis, ou à la Chine, ou à la Russie ? C'est ça la question. La progression d'un certain vote dans un pays comme la France, ce vote qui progresse également dans d'autres pays européens, semblerait dire que non. Les États-Unis d'Europe, dit donc Gaspard Koenig, formeraient alors au temps du retour des empires une république imprenable, respectée, libre de développer son propre mode de vie. Il faut donc en finir, écrit le philosophe, avec l'éternel discours selon lequel l'Union européenne serait une construction politique sans culture commune, car cette culture commune est devant nous. Il suffit d'avoir visité les deux extrémités du mur d'Adrien, l'une perdue dans le brouillard de la lande écossaise, l'autre émergeant dans les eaux troubles du delta du Danube, aux confins orientaux de la Roumanie, pour prendre la mesure de l'histoire longue qui nous a forgés. De Rome à Charlemagne jusqu'au monde d'hier de Stefan Zweig, l'Europe préexiste aux nations qui la composent. Je serai pour ma part très heureux d'être citoyen européen, dit Gaspard Koenig, tout en participant à l'agora dans mon village normand. Les États-Unis d'Europe paraissent aujourd'hui bien utopiques, reconnaît-il. Et alors, la peine de mort contre laquelle Victor Hugo se battait déjà fut abolie un siècle après sa mort. Pourquoi est-on devenu si frileux, si avare d'idéaux? Remettons en branle notre imaginaire politique. Pardon. Les prochaines élections législatives comme présidentielles pourraient bien se jouer sur la question européenne. Faut-il porter les nationalistes au pouvoir? Je relis cette phrase. Les prochaines élections législatives comme présidentielles pourraient bien se jouer sur la question européenne. Faut-il porter les nationalistes au pouvoir? Au risque de devenir une puissance moyenne vassalisée? Ou tenter de donner une impulsion décisive aux États-Unis d'Europe? Seule perspective crédible pour reprendre en main notre destin collectif? Se demande Gaspard Koenig. Voilà. Intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vieille idée. Mais là, forcément, au vu de l'actualité, elle ressort. Alors, question de Philizy. Tu parles de la vraie actualité après. Philizy, quelle est la vraie actualité? C'est ta passion pour le budget qui te fait dire ça, mon Philizy? Passion budget? Passion dette? Passion intérêt de la dette? Passion recette? Passion dépense? Passion 49.3? On va en parler. Alors, l'Europe. Le flouge, la thune, la moula? La corneille aux pieds nus. On est souvent traité de bisounours quand on évoque cette idée. Ça a tendance à mettre fin au débat assez vite. J'entends. Merveille baiser d'âge. J'ai toujours été pro-européen, surtout quand les grands-parents me racontaient leur enfance dans une France occupée par nos voisins. Koviak. Je me sens tellement européen pour ma part, je trouve ça génial d'avoir un lien fort entre des pays socialement différents. Je ne comprends pas, aux heures de la mondialisation, que les pays veuillent se fermer à leurs voisins et de s'affaiblir aux yeux du monde. Verena propose un nom pour ces États-Unis d'Europe, parce qu'on est d'accord que États-Unis d'Europe, c'est pas très... Tu vois, si on pouvait éviter le mot États-Unis. Et Verena propose un autre nom pour cette union accrue de l'Europe, protectorat réciproque organisé, uni à travers l'Europe. La Prout. Le Prout, c'est un protectorat. C'est pas mal, c'est joli. Je l'épingle. C'est une proposition. Prout. Protectorat réciproque organisé uni à travers l'Europe. Ouais. Ça, c'est une... Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. J'avoue. Il y a Sil Toyosan, salut, qui dit bonjour, dommage que la France ait perdu au XVIIIe siècle 40% du territoire américain. Vous savez que la France a vendu. C'est quoi, c'est la Floride? Je ne sais plus. Aux États-Unis, une partie du territoire. Et alors, il y a un truc très très drôle, c'est. Il y a un Britannique, là, je ne sais plus qui c'est, qui a pris Trump au mot, parce que Trump dit ouais, mais. Faut nous rendre le Groenland, c'est à nous. Il y a un Britannique, c'est la Louisiane. Et le Britannique, il dit « Ouais, mais il a raison, Trump. Avant, c'était à nous, ça. Hein, les États-Unis, là. Donc, au nom de l'histoire de la glorieuse et grande Angleterre, Trump, faut nous rendre tout ça. Hein, c'est à nous. Hein. » Très drôle. « Et Tib écrit qu'il rende son pays aux Indiens, aux Amérindiens. Voilà. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que la fameuse, vous avez des articles là-dessus, des vidéos, la fameuse ICE, la fameuse ICE, la police anti-immigration, là, la police de l'immigration de Trump, elle a arrêté plusieurs Amérindiens ces derniers jours, les prenant pour des immigrés en situation irrégulière. Ce qui donne des scènes surréalistes, hein, d'Amérindiens, hein, les habitants au début, qui interpellent, qui crient sur les agents de l'ICE, les habitants originels, merci, en disant, un peu en mode Mélenchon, moi, autochtone, merci, moi, c'est moi que vous traitez d'immigrés ? C'est vous les immigrés, toi. Ça donne, on en est là aux États-Unis actuellement, quoi. C'est incroyable. Alors le problème, c'est que on reprendra sans doute de Trump demain, quoi. Alors, les amis, un dernier petit sujet. Suite à quoi, je remercierai notre sponsor du jour, parce qu'il y a un sponsor sur la matinée Étienne aujourd'hui, voilà, qui est Manpower et qui soutenait cette revue de presse ce matin. Et donc, j'ai un petit message à votre attention, à vous lire, mais après, ce sera après, c'est après l'actu. Voilà. Là, nous, on passe au budget. Alors, non, c'est pas du Rex. En vrai, un petit sponsoring préservatif, moi je ne dis pas non. Ah, mon concurrent Manpower, Onim, ça va t'intéresser. Mais s'il y a un marchand de préservatifs ici qui veut sponsoriser cette revue de presse, on pourra trouver des slogans sympas. Hein. La matinée Étienne, la matinée qui protège de tout, sauf de l'actualité. On pourrait faire un truc comme ça, quoi. Avec la matinée Étienne, sortez couvert contre les fake news. Et même j'ai dit, ah, Manpower, s'il pouvait me trouver un CDI rapidement. Bah, ça tombe bien, c'est de ça dont je vais vous parler. Voilà. Voilà. La matinée Étienne, la matinée qui ne capote pas. Ami Durex ou autre, moi, je suis très preneur, d'une matinée Étienne sponsorisée par un préservatif. Je pense que ça aurait de la gueule. Il y a des ermites qui disent, pitié, un travail, j'en peux plus des refus. Ben, justement, on va parler de ça tout à l'heure. Alors, le budget. Moi, je vous l'ai expliqué hier, ça fait des semaines que je ne vous en parle pas. Je ne vous en parle pas, et puis il y a un texte, des amendements, et puis en fait non, puis c'est pas voté, puis ça part au Sénat, puis ça revient à l'Assemblée, puis il n'y a pas de majorité, et puis ce sera peut-être ci, ce sera peut-être ça. J'aurais pu vous lire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles sur ce qu'il y aurait pu y avoir dans ce budget, et je ne l'ai pas fait parce que ça servait à rien. Parce que nous n'avions aucune idée de ce qu'il y aurait dans le texte final. Donc je vous ai épargné, je vous ai protégé de ça, comme un préservatif. Voilà. Je vous ai protégé de ça, je vous ai protégé de ces heures d'articles sur le budget, voilà, alors qu'il y avait des articles partout dans la presse. Voilà. Parce que franchement, ça ne servait à rien. Bon, bah là, ça commence à devenir intéressant, parce qu'on commence à savoir ce qu'il y a dans ce projet de budget, qui va sans doute être adopté par 49.3, et là, ça redevient intéressant. J'enlève en haut du chat la proposition de nouveaux noms pour l'Europe. Hein, prout, on y reviendra. Dans les Échos, il y a des articles partout ce matin, dans les Échos, on nous explique que le Cornu va finalement faire passer son budget avec le 49.3. Cet article de la Constitution, 49 alinéa 3, qui permet de faire passer, adopter un texte de loi, ici loi de finances, sans vote du Parlement. Est une mesure exceptionnelle, voilà, qui a été dont se sont servis, dont usé et abusé plein de gouvernements précédents. Voilà. Mais Le Cornu avait dit voilà, allez, pour mon Le Cornu 2, deuxième gouvernement, une promesse. Moi, je vous fais une promesse, il n'y aura pas de 49.3. Voilà. Moi, c'est mon style. C'est ma marque de fabrique, il n'y aura pas de 49.3. Bon, bah, Le Cornu, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le Cornu, il dit aujourd'hui, ben, pour le budget, ça ne va pas être possible. Voilà. Pour le budget, ça ne va pas être possible. Il n'y a pas de majorité. Je ne vais jamais pouvoir faire passer de budget. Donc, ce sera sans doute un 49.3. Voilà. Parce que c'est notre projet. Je vais booster tous ces sons, parce que là, ils sont un petit peu faibles, mais c'est un peu l'idée. Lisons, puis voyons un petit peu ce qu'il y a dans ce texte. Au prix du renoncement à sa promesse de ne pas l'utiliser, le Premier ministre a opté pour le 49-3 sur le budget à l'issue d'un conseil des ministres à l'Élysée. Le PS ne censurera pas, alors qu'a priori dans le passé, le PS avait dit si jamais il y aura un 49-3, on va censurer. Donc ça fait deux retours finalement sur position. Voilà. Le PS ne censurera pas. Voilà. Ouvrant la voie à une adoption du texte et au maintien de Le Cornu à Matignon. Un budget au prix d'un renoncement. Dans un Parlement qui fonctionne, qui a été renouvelé il y a plus d'un an et qui ressemble aux Français avec ses divisions, on ne peut pas passer en force, on ne peut pas contraindre son opposition. Le 3 octobre dernier, Sébastien Le Cornu a annoncé sur le perron de Matignon « Renoncer au 49-3 ». Pour donner la main au Parlement, dans le cadre du budget. Eh bien, ce pari n'a pas marché. Voilà. Il a dû faire machine arrière. Ok. Jusque-ci, c'est clair. La tactique a fait ses preuves pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, qui a été adopté en décembre dernier. Ça a marché. Ça a été compliqué, mais ça a marché. Mais après 3 mois et demi de débat, voilà la longueur du débat sur le budget. Hein. Elle a rapidement montré ses limites pour l'autre texte budgétaire, donc pas la loi de financement de la Sécu, mais le projet de loi de finances, hein, ce qu'on appelle le budget. Ça n'a pas marché. Jeudi dernier, ne pouvant que constater l'enlisement des débats, le gouvernement a stoppé net les discussions à l'Assemblée, ouvrant la voie à un passage en force, à savoir le 43 ou les ordonnances. 49-3. Il y a Mix qui dit, vu le niveau, voilà surtout le niveau du débat. Alors je suis pas d'accord avec toi. Le débat au Parlement sur le budget a été passionnant. Ça a débattu, ça a voté, ça a échangé, ça s'est interpellé, ça a réfléchi. C'était vraiment intéressant. Pour le coup, ils ont bossé, les députés et les sénateurs. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas de majorité, bah, rien n'en est sorti de ce travail. Tu peux quasiment mettre tout à la poubelle. C'est pour ça que je me suis abstenu d'en parler. Parce que s'il n'y a pas de majorité pour voter le texte, non, il ne se passe rien. Donc c'est là où on en est. C'est là où je reprends la main, moi, avec mes petits articles, en vous disant, bah, voilà ce qui arrive. C'est, donc, il reste deux options, 49-3 ou ordonnance. C'est la première option qui a été choisie, donc 49-3. À l'issue d'un ultime week-end de négociations avec le Parti Socialiste et toutes les composantes du socle commun, Renaissance, Modem, Horizon, Les Républicains, à l'Assemblée. Lundi, après un conseil des ministres expédié, le Premier ministre a lui-même annoncé le recours au 49-3, donc a priori, c'est sûr. Hein ? Il engagera donc aujourd'hui, mardi, la responsabilité de son gouvernement, puisque quand tu utilises l'article 49-3, tu engage la responsabilité du gouvernement et tu t'exposes donc à une motion de censure qui peut, ouit, virer le gouvernement, hein, sur la partie recette du budget. Attention parce qu'il y aura un 49-3 sur la partie recette et il y aura un 49-3 sur la partie dépenses, donc ça, il y aura plusieurs motions de censure, il faudra suivre ça dans les prochains jours, quelqu'un comme Jean Massier vous expliquera ça parfaitement. Non sans regret et amertume, le Premier ministre, hein, sur le 49-3, comme il l'a dit, actant le semi-échec de sa méthode. Il le dit, il dit, bah, c'était pas ce qui était prévu, quoi. Très bonne question de Dramarche. Mais 49-3 sur quel texte ? Celui de départ ? Non ! Ça aurait été par ordonnance. Ouais. Non. C'est sur le texte amendé, notamment avec les propositions des socialistes. C'est pour ça que les socialistes disent, ok, on va pas voter la censure, parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. J'ai bien compris ces derniers jours, dit Le Cornu, qu'en m'entêtant trop longtemps, je serai moi-même source de désordre. Le Premier ministre a donc joué la carte du pragmatisme, écrivent Les Échos. Est-ce qu'on renoue avec un scénario de crise ou va-t-on vers une sortie de cette mauvaise séquence que nous connaissons depuis septembre ? Il n'empêche, le déclenchement tardif du 49-3 laisse un goût amer à celui qui, depuis le début, le pressait d'appuyer sur le bouton. Puisqu'il y a des gens, depuis le début, qui disent « Mais quelle bêtise a fait Le Cornu de dire qu'il n'utilisait pas le 49-3 parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre solution, au vu de la donne politique au Parlement, notamment à l'Assemblée. Comme le dit Félizy, aujourd'hui, c'est juste ingérable, l'Assemblée. Le Cornu, qui ne veut pas être le seul responsable de cet échec, dénonçant les forces politiques, du RN à la France insoumise, en passant par les écologistes et les communistes, qui, selon lui, n'ont pas joué le jeu de la négociation budgétaire. Le Cornu se retrouve donc avec un budget. Quel budget ? On va en parler quand même. Qu'il est le seul ou presque à défendre. Voilà. Il l'a qualifié de solide et sérieux. Bon, il ne va pas dire que c'est un budget qui sent le caca. Dans la mesure où, a-t-il à nouveau assuré, il ramène le déficit à 5% sans augmenter la pression fiscale pour les ménages. Il n'y a pas de nouveaux impôts pour les ménages. À gauche, le PS ne censurera pas, puisqu'un accord a été trouvé. Depuis l'annonce de la nouvelle copie budgétaire fin de semaine dernière, les responsables du PS se sont succédés pour entériner une non-censure. Le PS, pourquoi le PS ne va pas censurer le gouvernement ? Parce qu'il se félicite des avancées obtenues et, malgré son opposition au 49.3, préfère ne pas s'attarder sur l'outil déployé pour faire passer le budget. Alors, à droite, ça râle un peu. La droite, ça râle un peu. Le budget proposé par le gouvernement reprend tous les ingrédients socialistes qui ont conduit au déclin de la France. Plus de dépenses, plus d'impôts pour les entreprises, pour les grosses entreprises, avec la taxe exceptionnelle sur l'IS pour les 400 ou 300 plus grosses entreprises françaises déjà en place l'an dernier et qui va être reconduite alors qu'elle devait être exceptionnelle. Donc à droite, ça râle. Hein, plus de dépenses, plus d'impôts, j'ajoute, pour les entreprises qui pèsent et découragent ceux qui produisent. Alors je vous passe les éditos de ce matin dans plusieurs journaux, Figaro, L'Opinion, en mode c'est scandaleux, on tape encore les entreprises, et c'est qui va créer des emplois, et c'est qui va payer, etc. Mais vous connaissez. Le résultat est connu, de la dette en plus, des emplois en moins, un pouvoir d'achat des Français qui continuera de décrocher, dit la droite. Ce budget entérine le fait qu'il faudra attendre la présidentielle pour réformer les besoins, les réformes dont le pays a besoin, a pilonné Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Mais LR, qui râle, ne censurera pas non plus. Voilà. Voilà. On se prononcera au regard du budget et uniquement par rapport à ça. Voilà. Et du côté de LR, a priori, on ne votera pas la censure non plus. Même si ce budget est, selon LR, très imparfait. Alors après, ça va repartir au Sénat. Voilà, enfin bon. Mais globalement, ça, c'est ce qui devrait se passer, quoi. Vote par 49-3. Après, il y a des motions de censure. Mais à partir du moment où les socialistes ou LR globalement disent qu'ils ne vont pas voter la motion de censure, mathématiquement, les voix du RN et de LFI additionnés ne suffiraient pas à renverser le gouvernement le cornu, quoi. Je vous lis, parce que vous connaissez ce sujet aussi bien que moi. Ne pas censurer, dit le ZAF, c'est parfois un moyen de valider un truc sans en subir la responsabilité ensuite. C'est exactement ça, tu as complètement raison. Ouais, tu as raison, c'est ça. Ouais, Lazaret, t'as raison. Lazaret, cette séquence post-dissolution montre l'incapacité des politiques français à passer à un système parlementaire. En tout cas, à une lecture parlementaire des institutions de la Ve République. Le Cornu avait donné la main au Parlement, hein, qui approuvait son incapacité ou son absence de volonté, ce qui n'est pas la même chose, tu as raison, de prouver qu'ils étaient capables de faire monter le parlementarisme en puissance. Cela ne fait que renforcer les tenants d'un système vertical avec le discours « homme fort, moins d'élus, passé par ordonnance, etc. » On n'est pas dans un système parlementaire, dit le Cornu d'émission, joli pseudo. Sauf qu'en fait, il y a une pratique parlementaire, la cinquième, qui est possible. Quand il y a cohabitation, Mitterrand, Chirac, dans le passé, Chirac, Jospin, etc. Quand il y a cohabitation, il y a eu des séquences de cohabitation en France. Le régime, c'est un régime... C'est une pratique parlementaire des institutions de la cinquième. Le président, il sert à rien. Le président est le premier ministre est l'émanation du parti qui a gagné les législatives. Et la politique de la France, elle est décidée au Parlement. Elle est décidée au Parlement et au gouvernement, émanation de ce Parlement. Et le président, il inaugure les chrysanthèmes, il va au teuf, il coupe des rubans, il ne sert plus à rien. Alors, il a sa liberté de parole, dont il use et il abuse. Voilà. Il se redore la pilule pendant que le gouvernement... gouverne et perd en popularité, et puis 2 ans plus tard, il se fait réélire. Mais c'est une pratique parlementaire de la cinquième. Il y a une pratique parlementaire de la cinquième qui est possible. Mais hors cohabitation, encore faut-il que les acteurs le souhaitent. Aujourd'hui, disons les choses, par exemple, Macron, aujourd'hui, il sert à rien. Hein. On n'est pas en période de cohabitation, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée, il sert à pas grand-chose. Son dernier grand pouvoir, c'est de nommer le Premier ministre. Il s'est refusé à nommer un Premier ministre de gauche, il s'est refusé à nommer un Premier ministre d'extrême droite. à la lumière des législatives. Donc c'est son dernier grand pouvoir. Il nomme il continue à nommer des gens plutôt proches de sa pensée politique. Pour le reste, il sert à pas grand-chose. Oui, au niveau international, mais comme il est affaibli sur la scène nationale, les partenaires internationaux de la France l'écoutent moins aussi, Macron. Un président sans majorité à l'Assemblée, c'est un président tout nu. Il peut dissoudre l'Assemblée, ouais. Mais par rapport au pouvoir d'un président soutenu par une majorité, qui est un président pas tout puissant, mais presque sous la cinquième, on est très loin. Donc voilà. Alors je vais vous tenir au courant de ce projet de budget. Hier, on a lu ce qu'il y avait dedans dans ce projet de budget, le fait que globalement il n'y avait pas d'augmentation d'impôts sur les ménages, que les retraités finalement vont pas être impactés, qu'il y aurait au niveau de l'indice de revalorisation de l'IR, donc les gens seront pas impactés par la hausse des prix, et globalement que l'effort va être plutôt fait par les grosses entreprises avec la taxe là. Voilà. Mais on reviendra en détail. Au moment où le budget sera adopté, je vous ferai un truc bien carré pour vous dire ce qu'il y a dedans. Salut Toganix, bienvenue. À la fin, un déficit qui continue à se creuser, mais c'est cool, c'est la faute à personne, dit le ZAF. C'est pas complètement faux. Les amis, je vous garde encore un petit peu pour parler d'Empora. Voilà. Alors, c'est dans le cas d'une sponsor, hein, je suis tout à fait transparent. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit collaboration commerciale. Tac. Je vous le mets aussi dans le titre du stream. Voilà. Et on va parler d'Empora. Hop. Ici, voilà, je vous mets un hashtag publicité. On va parler de Manpower, hein, qui soutient cette revue de presse. Manpower, les soutiens du 15 de France, il me semble, me dit Sugar. Alors peut-être, mais là, c'est soutien de moi, et je les en remercie. Alors, je mets publicité dans le titre du stream, pour être carré. Voilà. Hop. Et attendez, je crois que j'ai préparé un logo même. Parce que ici, ça bosse. Tac, attention. Oh merde, il marche pas. Oh, il marche! C'est beau ou c'est pas beau? Voilà. Bon, et du coup, on va parler aussi d'emploi. Et on va parler d'alternance aussi. Voilà. Donc merci Manpower de sponsoriser cette matinée, Étienne. Voilà. Est-ce que tu nous proposes une valorisation du salaire en concluant un contrat avec Manpower? De ton salaire? Alors non, ça... non, non, non. Mais je leur demanderai. Donc merci Manpower. Manpower, pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le recrutement, notamment. Ils font d'autres choses. C'est un acteur clé pour trouver un emploi. Alors historiquement, Manpower, dans ce qu'on appelle l'intérim à l'origine, mais aujourd'hui qui s'est diversifié sur tout type de contrat, CDD, CDI, stage, trouver des, et alternance. Voilà. Et on va aller sur le site de Manpower pour le voir. Aujourd'hui, il y a 22 000 emplois proposés, disponibles. Merci Nostal, le stream avec Ava était cool. 22 000 emplois proposés sur le site Manpower. Point d'exclamation Manpower dans le chat. Bim, vous l'avez. Alors 22 000 emplois, et là vous allez me dire, mais comment tu le sais? Mais comment tu le sais? Voilà. Ben parce que j'ai compté. Voilà, je suis allé compter. Il y a quelques unités près, quoi. Voilà. Mais je les ai comptés un par un. Donc c'est pour ça que je me suis couché tard et que j'ai un peu des cernes sous les yeux ce matin. Je suis allé compter offre par offre. CDI, CDD. Alternance, stage. Voilà. Et donc, il y en a 22 000. Tiens, je vais vous épingler le site Manpower qu'on va aller voir. Tchic. J'ai pas épinglé du tout, je fais n'importe quoi. Bim. Là, il est épinglé. Ah, il est épinglé. C'est moi qui l'ai épinglé. Ah, bah, c'est vous, je l'avais déjà fait en fait. Voilà. Autoriser les cookies. Oui, bien sûr. Tac. 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 On y est. Oui, je l'avais déjà épinglé. La puissance de l'homme. Oui, on pourrait dire ça comme ça aussi. Donc, 22 000 emplois actuellement, m'a dit Manpower sur le site. Je parlais de contrats d'alternance. Alors, on sait que le marché de l'alternance est difficile en France aujourd'hui. Vous êtes nombreux à me dire, pour ceux qui sont en recherche d'alternance, que le marché il s'est restreint, il s'est durci. Vous savez que les crédits pour soutenir l'alternance en France ces derniers mois ont été réduits, hein, parce que le gouvernement et l'État ont considéré que ça coûtait trop cher. Et c'est bien dommage, parce que ce truc qui a soutenu l'alternance et qui a proposé à plein de personnes de trouver des alternances pour se former et trouver un emploi, eh bien, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en recherche d'alternance. Voilà. Alors, justement, des contrats d'alternance, il y en a. Le site est down. Pourquoi vous avez, vous êtes trop nombreux dessus ? Ça m'étonnerait quand même. Vous avez crashé le site ? Non, non, ça marche. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi qui es down, DaWeb. Attends, qu'est-ce que je vais te mettre, toi ?
Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude ! Mais enfin, ça va pas !
Le site n'est pas down du tout. Il marche du feu de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes ? Voilà. Donc, des contrats à l'alternance, il y en a proposé, par exemple, ici sur le site. Manpower propose chaque année 2000 postes d'alternants en entreprise. Voilà. Donc là, on peut se promener un petit peu. Vous êtes un candidat, vous êtes une entreprise, trouvez un emploi. Alors, ce qui est bien, moi, je me suis promené un petit peu sur le site, c'est merci pour le bonne année, meilleurs vœux. C'est drôle, j'avais l'impression qu'hier, il n'y avait pas le bonne année, meilleurs vœux. Je ne sais pas. Ouais. Mais peut-être que j'ai mal vu. Peut-être que le soir, j'ai les yeux pas très ouverts aussi. Voilà. Et donc, vous pouvez chercher par métier, par mots-clés, par région aussi. Voilà. Les dernières offres d'emploi ici. Ah, la fake news. Oh. Tout à l'heure, dans le chat, des gens me disaient, mais Samuel, tu mens. Ça n'est pas 22 000 emplois. Je suis allé voir sur le site. C'est 13 337, me dit Elifie. Et j'ai fait mine d'ignorer le message. J'ai fait mine d'ignorer le message en disant « Ouais, c'est bon, j'ai compté ces 22 000. » Et je vois ici 13 396. Merde. Sur le site de Manpower. Bon. Ok. Fake news, Samuel Etienne. Bon, je me suis débunké moi-même et je tiens à m'excuser. Voilà. je suis désolé. Ça a bougé. Ça a bougé. Il y a Olivier qui dit oh, 10 000 près. Hein. Mais j'ai compté. Mais je pense que j'ai dû recompter. Voilà. Donc ça doit varier, effectivement. Voilà. Moi, je voulais faire deux petits focus, hein, sur ce que propose Manpower, deux trucs que j'ai trouvé intéressants et qui sont propres à Manpower. Hein. Mais d'abord, peut-être se promener d'ailleurs un petit peu, métier ou mot-clé. Ou. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout par région, moi. Nos contrats, nos agences, par région, c'est bien. Trouver un emploi. Ah ouais, c'est ça, voilà. Là, vous avez un moteur qui est plutôt bien fait. Alors, vous pouvez mettre mission en intérim, CDI, CDD, CDI intérimaire, alternance. Voilà. La région, oh, c'est en dessous la région. La localisation. Voilà. Et ça vous fait un petit crible. C'était 22 000 avant que tu en parles, mais grâce à toi, 10 000 offres trouvées preneurs. Ouais, j'adore. Ouais, c'est la force du streamer. Ça veut dire que 8 000 personnes ont trouvé un emploi depuis ton compte. Ça, la classe. Voilà. Et donc là, en vrai, c'est super pratique. Là, je vois par exemple, il y a un truc au début, c'est les dernières offres qui sont tombées par exemple. Électricien du bâtiment, comptable en cabinet, mécanicien auto, opérateur de production. Et vous voyez, DA, bon, en général, il y a le... C'est pas en général. Il y a le type de contrat. Ici, c'est un CDI. Ici, c'est une mission en intérim. Et vous avez le salaire proposé. Voilà. Et puis après, vous postulez. Et puis, ce qui est demandé en termes d'expérience, le secteur. Voilà. Ici, chef d'équipe production agroalimentaire, par exemple. Voilà. Et ce qui est intéressant chez Manpower, c'est qu'ils ont deux programmes, un peu Manpower style, quoi. Vous avez notamment Focus My Pass. Alors là, j'ai dû un petit peu upgrader mon anglais. Focus My Pass, alors Focus, et My Pass, mon chemin. Je dirais, comment vous le traduiriez, vous, les bilingues. Hein. Hop, excuse-moi. Ah oui, j'ai changé de scène. Merci à toi. C'est ça ouais. Ah, et l'accent, je sais, Samus. Je me destinais à une carrière internationale de DJ. Hélas, mon anglais a été un frein. ma voix. Voilà. Et donc, en fait, Focus My Pass, c'est une spécificité de Manpower. C'est un programme d'accompagnement des talents. Donc, vous avez 2000 personnes à Manpower qui s'appellent les agents de talent et en fait, qui vont vous accompagner, hein, les candidats, pour ceux qui le souhaitent, pour se former, pour évoluer dans l'entreprise, voilà, sur des postes très recherchés. Voilà. Alors, par exemple, sur Manpower, vous avez beaucoup de recherches dans le monde du bâtiment, de l'aéronautique, j'ai vu plein d'annonces, agroalimentaire, automobile, industrie au sens large. Voilà. Et donc, vous avez un programme d'accompagnement de talent, donc ça peut être vous. Bah oui, Badab, c'est une OP, mon chouchou. Hein. Ouais. Mais on va arrêter l'UMA après, si tu veux. C'est une bonne idée. L'UMA est en live, là. Les amis de l'UMA, qui est un des rares médias traditionnels à avoir réussi son arrivée sur Twitch et qui fait des streams plutôt sympas, quoi. Hugo me dit, 22 000, c'est pas une fake news, certaines offres contiennent plusieurs offres. Oh, ok. Et donc, il y a un agent de talent qui aide le talent, la personne accompagnée, à se former, par exemple, sur un poste, à évoluer dans l'entreprise. Ça peut être pour un premier emploi, par exemple. Ça peut être pour une reconversion aussi. Voilà, 2000 accompagnants, 2000 agents de talent chez Manpower. Et si ça vous intéresse, il y a 650 agences Manpower un petit peu partout en France. Vous pouvez pousser la porte et leur demander de vous renseigner sur ça. Impossible de se connecter au site en étant au Japon, me dit Kevin Atus. VPN. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle Graduate Program. Je vais encore me faire engueuler sur mon accent. Graduate Program. Alors là, pour le coup, c'est Manpower qui embauche. Pour Manpower. Vous suivez ? C'est Manpower qui embauche pour Manpower. The yes needs the no to win against the no. Pour ceux qui ont la ref. Voilà. Donc, c'est un programme d'alternance en Master 2, hein, qui vise à former de futurs salariés de Manpower, je suis assez fier de ma vanne, hein, qui débouche ensuite sur un métier, un emploi de business developer. Donc là, j'ai appelé, j'arrête de troller, c'est vrai, j'ai eu une réunion avec les gens de Manpower et je leur ai dit, je pense que s'ils sont sur le stream, ils vont rigoler, c'est quoi un business developer ? Parce que moi, je ne sais pas ce qu'est un business developer. Et ils m'ont dit, alors Samuel, si tu veux, un business developer, c'est un commercial qui, chez nous, va aller voir les entreprises pour voir ses besoins en termes d'emploi. Voilà. Et après, tu peux devenir, oui, un développeur de business. Je dis, un business developer, c'est un développeur de business. On était en Teams, je pense qu'ils m'ont regardé en mode, il est gentil, mais il est un peu con quand même. Donc voilà, le site est down pour le moment, mais j'adore. Vous avez fait crasher le site, mais j'aime ça. Bravo les amis. Je suis très très fier. Et donc t'es un master 2 en alternance, voilà, financé par Manpower. Et après, on te propose un emploi comme donc business developer, ok. Et après, tu peux devenir soit manager d'agence, voilà, ou directeur de secteur. Voilà, donc ça, c'est les emplois créés par Manpower eux-mêmes. Il y a les places sont chères, comme souvent en alternance. Il y a 22 places d'alternants pour ce programme qui a été lancé il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, je crois. Chaque année, le programme, c'est la rentrée, débute en septembre. Les prochains recrutements débutent en mars pour la rentrée en septembre. Ça vous intéresse, 22. Voilà. Et je vais vous mettre un autre site que le site Manpower pour les offres d'emploi proposées par Manpower pour Manpower. Hein. The yes needs the no to win against the no. Voilà. Ah non, mais Seb, tu peux dire, bien sûr. Même, si, même dans le cas d'une OP. Hein. Mais bien sûr, tu peux dire. Seb, attendez, il faut que je me l'envoie. Et ça, c'est les offres d'emploi proposées par Manpower pour Manpower cette fois. Ok. Alors, c'est où ? Je vous la mets. Il faut que je trouve comment je me l'envoie parce que je me la suis mis de côté. Il me faut un clavier. Hop! Mais si vous avez fait planter le site, j'achète. J'attends aussi le visuel de Léa qui doit nous proposer le dernier visuel pour le prochain Samplay de dimanche. Je lui ai dit qu'elle pouvait se faire plaisir. Je l'attends d'une minute à l'autre. Si je l'ai d'ici la fin de stream, je vous l'enverrai. Ok. Là, je l'ai. Ok, let's go. Sam, c'est ça. Voilà. Ça. Pour ceux que ça intéresse, ce programme d'alternance, je vous le mets dans le chat. C'est marrant parce que certains disent que le site est crashé et d'autres que le site n'est pas crashé. Il est crashé ou il n'est pas crashé ? Voilà, c'est ça. C'est ce site-là. Et je vous mets le lien dans le chat. Tac. Tac. Et tac, c'est épinglé. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu. Donc ça, le deuxième site que je vous ai épinglé, c'est pour notamment le programme d'alternance proposé par, par Manpower. Alors, MFICAT me dit, j'habite en Corse, il y a littéralement deux offres d'emploi. Alors j'ai vu qu'effectivement, selon les régions, il y avait des régions où il y avait beaucoup plus d'offres d'emploi. J'ai vu par exemple, ça m'a surpris, que, alors c'est peut-être pour les raisons d'implantation des agences Manpower, il y avait beaucoup plus d'offres d'emploi en région Auvergne-Rhône-Alpes, si je ne dis pas de bêtises, qu'en Ile-de-France. J'étais surpris de ça. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a une dynamique d'emploi qui est plus forte en Auvergne-Rhône-Alpes qu'en Ile-de-France, ou est-ce que c'est pour des raisons d'implantation des agences? Ça, je ne sais pas. Mais ça m'a surpris. Est-ce que tu peux raid la petite potière? Oui, mais on m'a dit que l'humanité était en live aussi, je vais aller voir. C'est ce que je me suis dit. Charcy dit peut-être parce qu'il y a plus d'offres d'emploi liées au secteur industriel et que l'industrie est peut-être plus présente dans cette région. Qu'est-ce que tu appelles le marché caché, Samus ? Merci Little Kimou, je te souhaite une très belle journée. Comme toutes les agences d'intérim, dit Seb, qui me demandait s'il pouvait s'exprimer, je lui ai dit bien sûr, je conseille de se renseigner sur les différents avis d'une agence avant de travailler avec. Voilà. Donc sachant que Manpower s'est créé sur le travail par intérim, mais aujourd'hui propose énormément de CDD et de CDI aussi. Les offres cachées, ce sont des offres d'emploi, me dit Samus, non communiquées officiellement et qui sont passées d'abord en interne. D'accord. Émeris, je vais peut-être en avoir besoin. Mon entreprise vient d'annoncer 2400 suppressions de postes. Alerte Info, France Info. C'est indiscret de demander quelle entreprise ? Merci au Charou. Ocharou nous dit, Ocharou qui suit cette chaîne depuis un moment, Manpower sont très bien, j'ai déjà travaillé avec eux, c'était impeccable. Capgemini, c'est une société, c'est quoi Sugar, c'est du consulting, c'est ça? 2400 personnes. Youngwolf me dit, en Suisse, quand tu es au chômage, il y a un site où les offres d'emploi sortent 5 jours avant d'être publiées pour favoriser les gens au chômage. Mais du coup, il n'y a que les gens au chômage qui ont accès à ça, alors. Ok. Informatique, tech, consulting, ok. Merci, la vie père, merci pour ton message. Prestation de services numériques, c'est ça. Comment ça se fait qu'ils suppriment autant d'emplois? Comment ça se fait? MMG, t'as bossé chez eux? Comment ça se fait qu'ils suppriment autant d'emplois? C'est incroyable. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. À la recherche d'intérim, à la recherche de CDI, à la recherche de CDD, à la recherche d'alternance, à recherche de stage, j'ai trouvé quelques stages aussi, à aller voir sur le site de Manpower. N'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous correspondent en termes de formation, en termes d'intérêt du travail, en termes de salaire, en termes aussi de situation géographique, bien sûr. C'est l'IA. Sur Capgemini, c'est l'IA. C'est l'IA évoquée. Mais 2400 emplois en France ou à l'international? Onim dit, du coup, je ne peux pas faire de pub pour ma société maintenant, ce n'est pas le moment. Pourquoi tu travailles dans le même secteur? Il regottait il n'y a pas si longtemps, dit 7005 à propos de Capgemini. Baisse d'activité, c'est compliqué depuis 2 ans, dit Coquito de la Vega. il y a moins d'emplois, plus de thunes. Les clients ont moins de besoins aussi d'IMIX. À propos de l'intérim, Jérém dit « Pour moi, l'intérim reste un cercle vicieux, mais cela est utile dans les périodes de grandes difficultés, comme j'ai pu l'être moi-même pendant 2 ans. » C'est 2400 suppressions d'emplois en France ? Oh, c'est chaud, ouais. Je pense que à la mesure de tout ce que vous... Tout à l'heure, on voyait beaucoup de réactions, vous savez, sur la question du harcèlement et, à l'école et sur la question du bizutage. À la lumière de tout ce que vous me dites, j'ai l'impression que je parle peut-être pas assez d'emploi en France dans cette revue de presse en vrai. Parce que ça nous permet aussi de que vous parliez de vos situations personnelles. Quoi. Je surveille l'heure parce que j'ai un Teams à 12h30, mais on est bien. 2400 sur 35 000 employés, ça fait 7%. Oui, j'ai MVP aussi, où, effectivement, j'ai MVP où on parle beaucoup de ça, mais je pense que, à vous lire, je me dis que je ne parle peut-être pas assez d'emploi dans cette revue de presse. Bac plus 5 en informatique avec 3 ans d'XP, me dit RGBA, c'est très chaud en ce moment. À la bondo l'IA, dit Souil. Alors ça, c'est un truc qu'on a lu dans les articles récemment sur le sujet. Aux entreprises, par exemple, il y a eu d'énormes plans sociaux, voilà, où d'énormes boîtes mettent en avant l'IA pour expliquer qu'ils suppriment des emplois. Et en fait, sauf que certains disent que c'est des prétextes. En fait, c'est des prétextes pour réduire les coûts. Alors qu'en fait, la productivité gagnée par l'IA ne suffit absolument pas à expliquer ces licenciements. Quoi. L'IA comme prétexte, comme une façade, comme dit Sugar. Moumou Reine des Mouettes lance une annonce dans le chat. Je cherche du travail en méthode, process, en Bretagne si jamais. Si dans la communauté, il y a quelqu'un qui travaille dans cet univers en Bretagne, méthode, process, je ne sais pas, tu me parles Moumou, ça ne me dit rien. Mais en tout cas, voilà. N'hésite pas à aller voir sur le site de Manpower. C'est quoi les ESN, MMG ? ESN, c'est quoi ? Master en informatique 2023, Oak Shadow, 2 ans d'alternance et je suis au chômage depuis. Putain, c'est... Il y avait un article ce matin que j'ai trouvé confus, que je voulais vous lire, je ne l'ai pas mis parce que je le trouvais confus. Mais qui dit, c'était une analyse, qui dit... Aujourd'hui, la Gen Z, la soi-disant qui ne veut pas travailler, parfois dénoncée par les cadres plus âgés dans les boîtes, en fait, le problème, ce n'est pas qu'elle ne veut pas bosser. C'est qu'en fait, cette Gen Z, elle est sous-payée par rapport aux générations précédentes, par rapport à l'investissement qu'on demande à ces gens pour travailler. Quoi. Voilà. Et en fait, il y a un décrochage au niveau de l'investissement et de l'engagement parce que en fait, les salaires rapportés au coût de la vie par rapport à ce dont ont pu bénéficier les générations précédentes, notamment leurs parents, leurs grands-parents, fait qu'il y a une démotivation, en fait. Sans compter la difficulté de l'accès au travail, comme Oak Shadow nous en parlait à l'instant. Donc là, l'article était un peu bizarrement foutu, mais c'était intéressant. Entreprise du service numérique ESN, d'accord. Et méthode process dont parlait Moumou, me dit Adelbach, c'est industriel productique principalement. Bonjour Samuel, dans mon secteur, prothèse dentaire. Salut, je connais un petit peu ça. De plus en plus de dentistes envoient les travaux en Chine, Turquie, grâce à l'envoi de fichiers numériques. Ok, chaud ça. Alors Emma de la Toile dit non, en ESN, mon ESN recrute, si vous voulez, on est gentil, promis. N'hésitez pas à contacter Emma de la Toile. Dans le chat, je fais de la concurrence à Manpower, Emma de la Toile dans le chat, qui travaille dans une boîte de SN, qui recrute. Ah, les anciennes SS2I. Ok, j'avais pas la ref. Attention, avec l'IA, par exemple, la moitié des projets d'IA sont annulés car pas assez de retour sur investissement est trop complexe, me dit Nounou. Ouais, mais sauf si les grosses boîtes utilisent l'IA pour motiver, expliquer des suppressions d'emplois. Tu vois, c'est plus un prétexte en fait. Alors, est-ce que après ils vont embaucher derrière ? Tu sais, la difficulté de trouver un premier emploi. Tubasa Olic. Je suis en dernière année de thèse de physique. J'essaie d'aller dans le privé ou même de quitter la recherche tout court. Pour l'instant, je passe par le round 1 des offres d'emploi. Zéro feedback. Dur de s'améliorer. JCD, le tireur aveugle, coucou Samuel. Le tireur aveugle, ça pourrait être mon surnom sur Valorant, ça. Je suis à la recherche d'un emploi dans la data depuis janvier. Tu es inclus dans ma routine de chômeur. Pendant que je réponds aux offres, fais des lettres de motivation et t'offre mon portfolio. Tu m'accompagnes tous les matins. Merci à toi. Merci à toi et force à toi, le tireur aveugle. Je sais bien la difficulté psychologique que ça doit être d'être dans cette phase de recherche d'emploi et quand c'est pas fructueux, quand on répond pas à tes courriers, quand force à tous ceux qui sont dans cette situation. Je vous lis. Hein. Comment ça, Emma ne dit pas qu'elle va toucher un bonus de coopération si la personne qu'elle parraine est recrutée? Emma, je surveille l'heure. Emma, si t'arrives à recruter via ce stream pour ton entreprise, tu touches un bonus ou pas, Emma? Emma, dis-nous. Comme dans toutes les boîtes ? Ok, je connais pas le système, moi. MDR, promis, c'est pas vrai. Je suis chargée de com et je suis alternante. Voilà, alors, vous voyez, hein,
quelle indignité.
C'est fou, ces attaques gratuites, là. Incroyable. Vous êtes grave. Je vous aime. Ah, vous voyez, hein, les soupçonneux, là. Je vous ai remis le site Manpower en épinglé là-haut. Est-ce qu'elle a un matelas, Emma? Emma, déjà. Ah oui, les fameux matelas Emma, là. Marque multi-condamnée pour pratique commerciale déloyale. Et encore récemment, là, une grosse agence m'a proposé une opération commerciale, une OP avec les matelas Emma. Et là, mais j'ai répondu à cette grosse agence avec qui je travaille parfois. Je dis mais comment, enfin, je leur ai dit ça hyper poliment. Hein. Je dis mais comment vous pouvez proposer une OP avec cette boîte qui a été plusieurs fois condamnée en France et à l'étranger pour pratique commerciale illégale. En fait, ce faisant, vous mettez les créateurs de contenu qui vérifieraient pas le truc. Vous les mettez dans la mouise. Il faut pas faire ça. C'est une grosse agence assez rigoureuse. C'est les gens que je connais avec qui je travaille qui sont vraiment carrés, quoi. Et donc, je leur dis, votre travail, vous, c'est de filtrer avant. Vous ne pouvez pas, vous devez pas proposer ces OP-là, en fait. Donc, Emma, moi, ils m'ont contacté en direct il y a des années, je leur ai dit non. Et là, c'est revenu par une agence. Je dis, mais toujours pas, les gars. Et c'est fou, ça. Sam ne dort jamais, il n'a pas besoin de matelas. Oh, il est 28, il faut que je me barre. Ils ont été condamnés pour quoi? Ils ont été condamnés en France et à l'étranger pour pratiques commerciales déloyales. Voilà, c'est en termes de non-respect de la concurrence. Je vais à mon OP. Mais ce qui est marrant, c'est que quand vous tapez, ils sont très très forts. Hein. Quand vous tapez, moi par exemple, pour vérifier s'il y a un problème avec une marque, avant d'accepter une OP, je fais une recherche sur la marque toujours, évidemment. Et je fais par exemple des cribles tout simples. Je vais sur Google Actu et je tape la marque et je fais polémique. Problème, procès, poursuite. Enfin, je cherche les trucs qui fâchent. D'accord ? Par exemple, là, si tu tapes sur Google Actu, faites le test, vous tapez Emma procès, non, ou Emma tout simplement, et vous tapez Emma actualité. Voilà. Pour trouver les articles d'actualité sur Emma, normalement, quand vous faites ça pour une marque, vous allez trouver tous les articles d'actualité de médias rigoureux. Et vous voyez s'il y a des problèmes. Quand vous faites ça, vous tombez sur des articles de publiés informations, publiés dans Le Parisien, publiés dans des grands journaux, mais qui sont des articles payés par la marque. C'est ce qu'on appelle de la publiés information. C'est pas illégal, hein. C'est juste marqué publiés information, voilà. Et ces articles disent que du bien de Emma. Et pour cause, c'est des pubs. Et pour trouver l'article polémique, il faut défiler plusieurs pages. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai rarement vu une marque acheter autant de contenu dans la presse écrite. Et j'ai l'impression, en fait, que ces articles achetés sont faits là pour cacher les articles qui, eux, renvoient aux vrais soucis, quoi. C'est assez... j'ai rarement vu... C'est la première fois que je vois ça sur une marque. Ouais. C'est assez étonnant. Bon, les amis, il est 29, je vous abandonne. Qui on raid ? Merci encore à Manpower pour d'avoir soutenu cette revue de presse ce matin. Merci. Vous êtes des champions. Qui on raid ce matin ? Qui est en live ? Non, du coup, on va pas raid Emma, ouais, vous avez raison. Ok. Vous me parliez de l'humanité qui était en live. Il y a plein de gens sympas en vrai. Hein. Bon, ouais, bon, Luma, c'est une bonne idée. Hein. Ils sont sur quoi ? Sur la canne. La canne était la vitrine du soft power marocain. Il y a Aldé. Il y a notre ami Jardy Stream. Aldé, vous voulez Aldé ? Et Aldé sur LOL. Ah ben l'humanité, ils viennent de cut. Mais à l'instant, tes mains. Là, à l'instant, là, sous mes yeux. Regarde. Attendez, je cherche. Alors, fais voir. Ah oui, bonne idée, ça. Ouais, les amis, ok. Vous êtes plusieurs à me demander un raid. Mais merde, je me suis gouré de scène. Vers Fabricadon, hein, notre ami qui est souvent dans le chat et qui fait des choses intéressantes. Parce qu'en fait, il a lancé un site de mini-jeux dont les revenus vont à des assos, je crois des ONG. Donc je vois Fabricadon qui est sur un tapis de marche en plus là. Voilà. Plus Warzone, faites accélérer le tapis, 100% reverser les associations. C'est joli, non ? Et le setup a l'air trop cool en vrai. Allons voir l'ami Fabricadon. Un viewer. Eh bien, on va mettre en lumière ce beau travail. Fabricadon. Let's go. Let's go. Merci les amis, je vais à mon Teams. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain matin pour la revue de presse. Il y aura peut-être du gaming ce soir. Je vous tiens au courant. Je mets toujours un petit message dans le chat pour vous dire si je stream le soir ou pas. Et j'essaie de prévenir aussi les modos. Merci, des bisous, prenez soin de vous. Merci pour la force que vous me donnez le matin en venant dans ma revue de presse là, où je vous raconte les mauvaises nouvelles. J'espère que demain j'en aurai des un peu moins mauvaises. Des bisous.
Je vous ai compris.